Voilà, donc d'abord merci d'être là ce soir. Merci aussi à Catherine Alamel-Raffin d'être présente ici ce soir, venant de Louan, en quelque sorte par rapport à Poitiers et Strasbourg, bien que Strasbourg se soit rapproché de Poitiers depuis quelques années grâce à un progrès au niveau des trains. Alors ce soir, oui, il y a une petite confusion dans cette programmation qui a été proposée à la fois par on va dire, le pôle astronomie planétarium de l'Espace Mondial des Sciences et le pôle histoire des sciences, avec Anne Bonnefoy sur le titre de la conférence, mais ça ne change rien au résumé. Le titre exact, en fait, c'est « De la lunette de Galilée au microscope à effet tunnel, hein, comment convaincre ses pairs de la pertinence des observations effectuées à l'aide d'un nouvel instrument », alors que sur la programmation qui était sur le petit livret, c'était la production et les fonctions des images en astrophysique, mais avec le même résumé que cette conférence-là. Donc j'espère que ça ne perturbera pas trop. Donc ce soir, on va essayer de faire cette sorte de comparaison entre deux instruments qui, d'un certain point de vue, n'ont pas de comparaison possible. Les époques aussi sont très différentes. Et puis aussi, vous nous parlerez peut-être de pourquoi avoir fait cette conférence-là, pourquoi s'intéresser à ce sujet-là, d'où est venue cette idée. À la fin de la conférence, bien sûr, il y aura un échange hein, pour revenir sur des points, pour aller peut-être un peu plus loin dans cette démarche-là. Voilà, donc je vous laisse à présent la parole et donc à tout à l'heure.
D'accord, merci beaucoup. Merci d'être venu, malgré le froid, visiblement. Alors tout d'abord, je souhaite remercier vivement Éric Chapelle et l'espace évidemment Pierre Mendès France pour cette invitation. C'est toujours pour moi un véritable plaisir de venir ici à Poitiers. J'étais déjà venue l'an dernier, au mois de janvier. Donc vraiment dans ce centre si dynamique, on est toujours très très bien accueillis. Donc c'est ça qui m'a aussi incité à braver le froid strasbourgeois pour venir aujourd'hui. Alors, avant de vous présenter mon intervention proprement dite, je voudrais apporter quelques éléments d'information sur le contexte, justement, qui m'a conduite à me pencher sur l'invention de la lunette de Galilée et sur l'invention du microscope à effet tunnel. Alors, en fait, je suis philosophe des sciences, et l'un de mes objets principaux d'études, de recherche, est constitué par les pratiques scientifiques, et notamment par la place qu'occupent les images scientifiques dans les activités de recherche, que ce soit les activités quotidiennes ou dans les activités visant à certifier des connaissances scientifiques. Alors, dans le cadre de mes activités de recherche, donc en tant que philosophe, je réalise ce qu'on appelle des études de laboratoire. Alors, qu'est-ce que c'est des études de laboratoire ? Dans ce cadre-là, il s'agit de séjourner en tant qu'observatrice, dans mon cas, dans des laboratoires scientifiques, d'observer les pratiques des chercheurs, l'organisation générale du travail qui a cours. Bref, je fais ce qu'on appelle autrement, pour dire autrement, des études de type ethnographique qui me fournissent les données indispensables à l'analyse philosophique des pratiques réelles des scientifiques. Et une des visées de mon entreprise est d'éviter de s'en tenir en fait à une reconstruction conceptuelle de la démarche scientifique, ce qu'on reproche souvent, et à raison à mon avis, depuis quelques décennies à certains philosophes des sciences. Donc c'est dans ce cadre-là, et depuis 1999, que j'effectue des séjours prolongés dans les laboratoires qui appartiennent à des domaines très différents. Alors j'ai commencé par la physique des matériaux, puis l'astrophysique, et en ce moment c'est la pharmacologie. Donc j'ai changé de domaine, je suis passée aux sciences du vivant. Et donc c'est précisément, c'est pour en venir à mon objet d'étude, dans un laboratoire d'astrophysique qui était situé aux États-Unis, c'est le CFA à Harvard, à Cambridge, que j'ai eu l'opportunité d'être présente donc, lors d'une phase de test d'un nouveau radiotélescope. Donc là, vous le voyez installé, c'est le 7 mm Array, SMA, qui est opérationnel depuis 2005 et qui est installé sur l'île de Hawaï, à 4080 mètres. Alors en discutant, comme j'ai passé pas mal de temps dans ce laboratoire, plus avant avec le directeur du laboratoire qui était Ray Blondel à l'époque, et qui dirigeait à la fois le processus de conception puis de construction après de ce télescope, je me suis rendu compte que l'idée même de concevoir ce type de télescope et de l'implanter sur Terre avait été au départ, donc 20 ans ou 25 ans en remontant dans le temps, très controversée. Pourquoi ? Donc, pourquoi on ne voulait pas construire ce type de télescope ? Essentiellement parce que la communauté des radioastronomes estimait que ce type de télescope n'avait pas sa place sur un site terrestre et qu'il aurait mieux valu l'embarquer sur un satellite, en raison notamment de la nature des informations qu'il est censé recueillir. En effet, le rayonnement électromagnétique, là ce sont des ondes submillimétriques enregistrées par ce télescope, et normalement relativement stoppé par l'atmosphère. Donc les radio-astronomes trouvaient ça très peu judicieux d'investir autant d'argent pour un projet pareil. Mais Ray Blondel était persuadé, lui, du contraire. Et donc, il a fallu, donc au cours des entretiens que j'ai eus avec lui, qu'il déploie une argumentation élaborée pour parvenir d'abord à convaincre ses collègues, ce qui n'a pas été facile, et puis son centre de recherche, évidemment, pour lui fournir un certain nombre de financements pour réaliser ce projet. Donc je passe, les années passent. Donc l'entreprise qui visant à convaincre ses collègues et ses pairs ne s'achève pas une fois qu'il a eu l'aval finalement de la pertinence de son projet. À travers les nombreux entretiens que j'ai eus avec lui, j'ai également compris à quel point il avait été difficile de s'assurer, en tout cas du moins dans un premier temps, de la qualité des données. Une fois que le télescope avait été, il y a d'abord eu un prototype et puis après le vrai télescope que l'on obtient avec un instrument, lorsqu'on commence à l'utiliser. Ça n'est pas du tout évident. Du coup, j'ai eu envie de savoir si les difficultés rencontrées seraient de même ordre si je m'intéressais à d'autres instruments considérés comme très novateurs en leur temps. Donc, c'est pourquoi j'en arrive à l'objet de ma conférence de ce soir, je me suis livrée à une étude comparative de l'invention de deux instruments scientifiques qui ont été considérés comme relativement révolutionnaires à leur époque d'apparition respective, c'est-à-dire la lunette de Galilée et le microscope à effet tunnel inventé par Gerd Bennig et Heinrich Röhrer. Et c'est cette étude que je souhaite vous présenter ce soir. Donc ça n'est pas un travail d'historienne, mais un travail de philosophe des sciences qui repose sur des données historiques. Alors évidemment, pour les historiens purs et durs, on va dire qu'une telle démarche peut paraître tout à fait non pertinente, dans la mesure où non seulement les époques considérées sont très 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 différentes, vous l'aurez compris, et également les domaines de recherche sont très très différents. Néanmoins, d'un point de vue philosophique, on peut dégager, vous allez le voir, des similitudes significatives lorsqu'un nouvel instrument dont la théorie est inexistante ou mal établie apparaît. On assiste à la mise en place d'un processus argumentatif et contre-argumentatif où inventeurs et détracteurs se confrontent. Et c'est ça qui m'intéresse, voir comment finalement on arrive à un consensus. Donc j'étudierai ce soir les stratégies mobilisées par les concepteurs des instruments novateurs en me référant aux travaux du philosophe et historien des sciences américain contemporain, toujours vivant, qui s'appelle Alan Franklin. Il est également physicien. Ce dernier a publié de nombreux articles et ouvrages depuis une vingtaine d'années, malheureusement non traduits en français à ma connaissance. Et vous verrez, alors je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, mais Alan Franklin désigne à l'aide d'une expression qu'il a forgée, donc que j'ai traduite en français, l'épistémologie de l'expérimentation. Il désigne 10 stratégies concrètes qui permettent aux scientifiques de croire en la plausibilité de leurs résultats expérimentaux quand ils travaillent ou observationnels. Ces stratégies fonctionnent comme des arguments dès lors qu'il s'agit d'attester de la validité d'observations qui sont par ailleurs rejetées par les pairs. Nous verrons que aussi bien Galilée que Gerd Bennig et Heinrich Röhrer vont y recourir. Évidemment, ils ne vont pas mobiliser les mêmes, mais ils vont recourir à ces stratégies. La clôture du processus argumentatif emprunte évidemment des voies différentes, parce qu'on n'est pas aux mêmes époques, mais finalement, elle consiste toujours à répondre à une même question. Comment convaincre ses pairs de la pertinence des observations effectuées à l'aide d'un nouvel instrument? Et en fait, cette question est partie de mes interrogations suite à mon séjour dans ce laboratoire de radioastronomie. Donc, c'était pour mettre un petit peu le contexte. Donc, mon étude va mêler intimement histoire et philosophie des sciences afin de saisir en fait ce qui fait la spécificité des cas abordés et puis voir ce qu'on peut en faire d'une manière plus générale, ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Donc, mon propos va se développer en 4 temps. Je vais commencer par résumer brièvement les conditions dans lesquelles ont été inventés ces deux instruments. Ensuite, je poursuivrai en dégageant les similitudes repérables dans les argumentaires proposés par les détracteurs de ces inventions, parce que vous allez voir que pour ces deux inventions, il y a eu des détracteurs. Les débats ont été assez vifs. Dans un troisième temps, j'exposerai brièvement l'épistémologie donc de l'expérimentation d'Alan Franklin. Et donc, ceci va me permettre, dans un quatrième temps, d'étudier les stratégies argumentatives mises en place par les inventeurs, donc par Galilée ou par Gerd Bennig et Heinrich Röhrer, pour défendre leurs nouveaux instruments. Donc, ça fera 4 temps et après, évidemment, un temps de questions. Donc, un bref résumé des inventions. Alors, très bref, hein. Galilée n'est pas, comme les historiens qui se sont penchés sur la question bien établi maintenant, n'est pas le premier inventeur de la lunette. On trouve trace de plusieurs artisans hollandais, dont Hans Lipperlé et Metius, qui présentent une demande de patente dès 1608 aux États généraux de La Haye pour un tube optique permettant un grossissement de 3 à 4 fois. Ce tube optique n'offrait vraiment pas, certes pas, qu'une image tout à fait médiocre. Alors selon Simon Mayr, un astronome allemand qui est contemporain en fait de Galilée, des lunettes se vendaient à Francfort lors de la foire d'automne de 1608. Donc visiblement, ça n'est pas Galilée qui a inventé les lunettes, il s'en est procuré, mais il l'a amélioré. Galilée ne fut pas non plus le premier à pointer sa lunette vers les cieux. Comme le rappelle Isabelle Plantin, là, donc dans les références dont je me suis servie, l'idée de regarder le ciel à la lunette n'avait rien d'étrange. Elle était déjà venue aux Flamands en 1608 et l'année suivante à Thomas Sariot et Simon Mayr. Alors bon, là, j'ai vraiment fait un résumé très, 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 très rapide. Mais si on veut plus de renseignements, enfin, il y a un article que j'ai trouvé très intéressant. C'est celui de Albert Van Helden, donc ça rend évidemment en anglais, The Invention of the Telescope, de 1977. Et puis, évidemment, l'introduction d'Isabelle Pantin au Messager Céleste, qui est assez bien faite, donc dans une édition Les Belles Lettres de 1992. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec sa lunette ? Eh bien, évidemment, il va faire des observations. Donc, il va améliorer, évidemment, ce tube optique de manière importante. Et cela va lui permettre, donc, à Galilée de faire ses premières observations au cours des derniers mois de l'année 1609 et au cours des mois de janvier et février 1610. Il expose ses découvertes dans un ouvrage, Le Messager Céleste, qui paraît le 12 mars 1610. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans cet ouvrage ? Eh bien, on découvre que la surface de la Lune est accidentée, donc j'ai repris un des fameux croquis de Galilée, montagneuse et similaire à la surface terrestre. On y découvre aussi que le fait que la Voie lactée est constituée en fait d'une multitude d'étoiles. Et puis surtout, on y découvre que Jupiter est doté de 4 satellites, que Galilée va baptiser les planètes médicéennes, en l'honneur des princes Médicis. Et c'est Simon Mayr, donc l'astronome contemporain allemand, qui, indépendamment de Galilée, va nommer ces satellites Io, Europe, Ganymède et Callisto. Donc voilà un peu à grands traits, évidemment, pour l'invention de la lunette. Alors maintenant, pour le microscope à effet tunnel. Alors, l'invention du STM. Alors d'abord, STM, c'est 3 lettres qui constituent en fait l'acronyme expression anglaise de Scanning Tunneling Microscope. Et en français, ça donne microscope à effet tunnel. Mais même en français, dans les laboratoires, il est coutume, dans les textes français, d'employer l'acronyme anglais, c'est-à-dire STM. Donc je dirais microscope à effet tunnel ou STM, mais c'est la même chose, hein, pour aller vite. Donc le STM a été inventé en 1981 par Gerd Benig et Heinrich Röhrer, que vous voyez ici sur la diapositive avec leur appareil, et qui ont obtenu le prix Nobel de physique en 1986. Alors là, il y a le principe du microscope. Donc, ce n'est pas un microscope où il y a des lentilles électromagnétiques ou des lentilles classiques, mais c'est un microscope qui fonctionne. Je ne sais pas si. Voilà. Ça marche, ça ? Donc, vous avez. Je ne sais pas si je me tourne. Donc, ça, vous avez une pointe très, très fine. Ça, c'est la surface d'un échantillon quelconque. On approche la pointe, on applique un courant, et ça produit un effet quantique qui est l'effet tunnel. Et donc la pointe va scanner toute la surface de l'échantillon et ça permet de donner, donc évidemment après c'est retransformé, amplifié, etc. On obtient les informations sous forme d'images et en fait ça permet d'obtenir des informations sur la topographie des échantillons. Donc on peut mesurer à une échelle atomique justement la surface des échantillons. Et alors là j'ai mis, donc dans un premier temps ce microscope permet d'examiner la topographie. Et puis, après, il a été perfectionné. Et maintenant, il permet de déplacer les atomes. Alors, je n'ai pas résisté à vous montrer cette image d'IBM. Où on voit où ils ont écrit avec des atomes, je ne sais plus de quoi, IBM, en déplaçant les atomes grâce à la pointe du microscope. Donc, voilà. Donc, c'est en gros, en très, très gros. Hein. Donc, évidemment, ce microscope a ouvert la porte à ce qu'on appelle désormais les nanotechnologies, dont on entend beaucoup parler régulièrement dans les journaux, qui suscitent parfois espoir et parfois inquiétude. Et puis, donc, il a donc permis de visualiser en 3 dimensions des atomes isolés sur une surface. Alors, lorsqu'on se penche de manière plus précise sur le processus qui a abouti à l'invention de ce microscope, on voit émerger une complexité déroutante. D'abord, pour Gbini Girerer, dans un premier temps, ils travaillaient dans un laboratoire donc IBM à Zurich. Ils ne travaillaient pas vraiment dans leur rayon de... Il ne s'agissait pas pour eux, si vous voulez, d'inventer un microscope. Ils connaissaient peu la microscopie et ils s'intéressaient relativement peu à la physique des matériaux. Leur objectif était en fait tout autre. Ils travaillaient, comme je l'ai dit, dans un laboratoire IBM à Zurich. Et ils cherchaient un moyen d'étudier finement les défauts de certains matériaux, et ce, à la demande de certains collègues qui travaillaient sur des couches isolantes destinées à des composants électroniques. Donc l'objet de leur étude, ce n'était pas du tout de mettre un microscope au point dans un premier temps. Donc leur ambition initiale n'était pas d'étudier la topographie de la surface des échantillons de matériaux, mais de se livrer à des études de spectroscopie. Et ils eurent l'idée, pour se livrer à ces études de spectroscopie, de recourir à un effet quantique, qui est l'effet tunnel, qui avait déjà été étudié à l'époque au travers des barrières d'oxyde. Et ils mirent plusieurs semaines à se rendre compte qu'en réalité, ils avaient mis au point une sonde qui permettait d'obtenir non seulement des informations spectroscopiques locales sur la surface des échantillons, mais également des informations topographiques. Et le microscope à effet tunnel était né. Donc vous voyez que c'était un processus un petit peu complexe. Alors voyons maintenant les similitudes dans l'argumentaire des contradicteurs. Alors dès la publication de l'ouvrage de Galilée, Le messager céleste, donc en 1610, un certain nombre de contradicteurs tentèrent de démontrer que les découvertes de Galilée étaient infondées. De même, les premiers résultats obtenus par Gbini Girerer avec leur microscope à effet tunnel en 81 furent accueillis assez fraîchement par la communauté scientifique. Dans les deux cas, les critiques portaient principalement en fait sur trois points. D'abord, le premier point, c'est l'existence possible d'artefacts produits par ces nouveaux instruments. Alors le mot artefact que je vais réemployer souvent désigne ici un effet indésirable produit par l'instrument ou par des éléments extérieurs qui viennent perturber l'expérimentation ou l'observation. Donc ça c'est le premier point. Deuxième type de critique, c'est l'absence de théorie solide. Il y avait vraiment une absence de théorie solide, pas de théorie solide pour étayer les résultats obtenus avec ces nouveaux instruments. Et puis troisième type de critique, c'est le fait que ces instruments, ou plus exactement les résultats produits par ces instruments, entraient en contradiction avec les théories admises aux époques respectives, donc en 1610, 17e siècle, et dans les années 80. Donc je vais revenir sur ces trois points un peu plus en détail pour vous montrer qu'on peut bien voir une similitude, en tout cas dans les critiques. Alors, commencer par Galilée, l'existence possible d'artefacts. Donc dès le 3 avril 1610, tout de suite en fait les polémiques relatives à la fiabilité de la lunette ont été très vives et elles portaient vraiment sur la capacité de l'instrument lui-même à permettre de révéler ces nouvelles découvertes et notamment les planètes médicéennes. Donc dès le 3 avril 1610, Ottavio Brezzoni formulait l'hypothèse de l'illusion d'optique qui va revenir de manière récurrente. Alors voilà la citation. Ils disent que c'est la lunette qui est la cause de ces apparences sur la Lune et ses étoiles et planètes encore jamais vues. D'abord à cause de quelques taches ou inégalités du verre. Ensuite parce qu'une épaisse vapeur aperçue par un œil fatigué à travers un verre lumineux peut facilement prendre l'apparence d'un corps lumineux. Dans le même ordre d'idées, Giovanni Antonio Magini, qui est un astronome renommé de Bologne, écrit dans une lettre qu'il adresse au duc de Bavière « Quand j'ai observé l'éclipse solaire avec des verres colorés, fabriqués par moi, il me faisait voir trois soleils. Je crois que c'est aussi ce qui est arrivé à Galilée, qui a dû être trompé par la réflexion de la lumière de la Lune. » Évidemment, les critiques les plus sévères portèrent, comme je l'ai dit, sur l'existence des planètes médicéennes, car elles étaient invisibles à l'œil nu, et l'affirmation de leur existence était du coup intimement liée à la fiabilité de cette lunette de Galilée. Donc, afin de convaincre les sceptiques, Galilée, sur la route qui le menait de Padoue à Florence, s'arrête à Bologne durant la Pâque 1610, et il permet à un public choisi d'une vingtaine de personnes, dont l'astronome justement Magini, de tester sa lunette. Et parmi cette vingtaine de personnes se trouve Martin Orki, qui est assistant de Magini. Donc voici ce que va en dire Martin Horky. Dans une lettre adressée à Kepler, dès le 27 avril 1610, donc après la venue de Galilée, Martin Horky affirme que l'instrument de Galilée est performant pour les objets terrestres, mais qu'il est trompeur quand il s'agit d'observer les cieux puisqu'il dédouble les étoiles fixes. Horky, lors d'une de ses observations avec la lunette de Galilée, a repéré 4 taches lumineuses près d'une étoile de la Grande Ourse, ce qui tendrait, selon lui, à faire penser que les taches lumineuses des satellites de Jupiter ne sont elles aussi en réalité qu'un pur artefact instrumental. Dans la même lettre, Martin Horky souligne que les témoins de cette démonstration étaient des personnes aussi nobles que compétentes et que l'ensemble du public conclut que la lunette de Galilée était en fait très décevante. Même Kepler, qu'on voit ici sur la diapositive, qui avait accueilli favorablement le messager céleste, et pourtant Kepler dans un premier temps n'était pas parvenu lui-même à observer les planètes justement médicéennes, presse Galilée de lui envoyer des comptes rendus de témoins. Je reviendrai sur cette histoire de témoignage à l'époque de Galilée tout à l'heure parce que c'est important. Galilée perçoit vraiment le caractère pressant de la demande de Kepler. Son unique allié, en quelque sorte, rencontre des difficultés certaines. Le seul témoin sur lequel Kepler peut s'appuyer est Galilée lui-même. Dans sa réponse qu'il fait à Kepler du 19 août, Galilée accède donc à la demande de son ami Kepler, mais ne peut citer comme témoin que lui-même, le grand-duc Cosimo II et Giulio de' Medici, donc ce qui est assez maigre. Ceci dit, vers la fin de l'année 1610, les confirmations des observations galiléennes améliorent la réputation de la lunette. Ainsi, les lunes justement de Jupiter qui posaient tant de problèmes furent observées par Thomas Ariot. En septembre, c'est Kepler qui arrive à les observer par lui-même. Et en décembre, c'est le père Clavius, professeur de mathématiques au collège jésuite romain. Il n'en reste pas moins que d'autres participants au débat, tel Francesco Sizzi, restent persuadés que les observations de Galilée sont trompeuses. Sizzi développe son point de vue dans un ouvrage qui s'appelle Dia Noia Astronomica Optica et Physica, qui paraît au printemps 1611. Sizzi reconnaît avoir vu, avec l'aide de Galilée, 4 taches autour de Jupiter. Mais pour Sizzi, le fait que plusieurs témoins observent avec le même instrument les mêmes phénomènes ne prouve rien, en rien, que ces phénomènes existent. Alors, il faut dire que les premiers télescopes n'étaient pas achromatiques et on pouvait observer fréquemment des halos de couleurs autour des objets célestes. Plusieurs témoignages d'observation à l'aide d'une lunette rapportaient avec raison le fait que certains éléments de l'observation étaient en réalité de simples illusions d'optique. En fait, Francesco Sizzi prétend que Galilée a exploité un instrument qui est source d'erreurs inconnues. Selon Sizzi, il suffit de prendre un verre d'eau et d'observer à travers ce verre d'eau une source lumineuse, comme une bougie par exemple. Et on se rend compte, selon Sizzi toujours, aisément, du fait que l'image est déformée et que la déformation va évoluer en fonction du déplacement, soit de l'observateur, soit du verre d'eau, soit des deux simultanément. Alors que dit Sizzi ? Eh bien, en gros, il dit « Quelle certitude peut-on alors établir à partir d'un instrument complexe qui comprend plusieurs lentilles ?» en regardant des sources lumineuses extrêmement faibles et lointaines comme les supposées lunes de Jupiter. Alors, notons tout de même que certains contradicteurs de Galilée, comme justement Sizzi, sont très nettement animés par des arrière-pensées qui visent à défendre le système aristotélicien. Il n'empêche, on en discutait tout à l'heure avec M. Chapelle, que certains arguments avancés quant aux artefacts potentiels produits par la lunette, par Sizzi, avait une pertinence qu'on ne pouvait purement et simplement congédier. Philippe Hamou, qui est un historien des sciences contemporain, qui s'est beaucoup intéressé à Galilée, dans son ouvrage que je vous recommande, La mutation du visible, qui est paru en 1999, résume les artefacts de la lunette de Galilée ainsi. Donc, je vais citer Philippe Hamou. Parmi ces effets, certains sont assez remarquables et paraissent à première vue difficiles à interpréter ou contradictoires. Ainsi, le télescope supprime l'éclat étoilé des planètes et les présente comme des disques bien délimités, tandis qu'il grossit considérablement la Lune et fait apparaître dans le firmament de nouvelles étoiles jusqu'alors invisibles. Il ne paraît pas grossir sensiblement les planètes et il diminue franchement les étoiles fixes qui irradient beaucoup moins que lorsqu'on les considère à l'œil nu. De façon générale, l'instrument semble avoir un effet sur les contrastes violents qu'il atténue, rendant plus distincts et plus pâles les objets lumineux et paraissant éclaircir le milieu sombre sur lequel il se détache. À ces différents phénomènes que Galilée mentionne, il faudrait ajouter ceux qu'il ne mentionne pas, mais qu'il ne pouvait pas percevoir dans sa lunette, les diverses aberrations liées à l'imperfection de l'instrument notamment, l'apparition des franges colorées, la distorsion et la confusion de l'image sur la périphérie du champ visuel, etc. Fin de citation de Philippe Abou. Donc vous voyez que même Galilée reconnaissait un certain nombre de ces artefacts et qu'il y avait vraiment un problème d'artefacts dans cet instrument. La discussion sur les artefacts produits par la lunette va reprendre à l'occasion de la publication de Libra Astronomica par Lotario Sarsi, qui est un anagramme en fait du nom de Orazio Grazzi, qui est un jésuite italien, astronome et mathématicien, à propos de la nature des comètes, donc plus tard. Sarsi, alias Grassi, s'appuie sur les acquis observationnels du messager céleste pour affirmer que les comètes sont bien des corps célestes qui décrivent non pas des orbites circulaires, comme prévu dans le système copernicien, mais sans doute des orbites elliptiques comme le soutient Tycho Brahe. La réponse que fait Galilée dans l'essayeur à cette affirmation est que les comètes ne sont finalement que des illusions d'optique, donc cette fois-ci c'est Galilée qui reprend cet argument, dû à, je cite Galilée, de simples effets de réflexion ou des réfractions analogues aux arcs-en-ciel et aux aurores boréales. Donc vous voyez que même quand on est Galilée, on peut parfois se tromper. Donc voilà. Donc, tout ça pour souligner qu'il y avait vraiment des débats autour de ces artefacts et que même si certains avaient vraiment des arrière-pensées, on va dire dogmatiques, il y avait vraiment un problème d'artefact avec cette lunette. Alors maintenant, voyons le microscope à effet tunnel. Les premiers résultats obtenus donc, dans le cas du microscope à effet tunnel en 1981, je vous l'ai dit, sont accueillis très fraîchement par la communauté scientifique. Le premier article qui est soumis en 81 à la revue Physical Review Letters est rejeté. Les arguments avancés par les relecteurs, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas familiers du fonctionnement des revues, ce sont des experts qui sont missionnés donc par les revues qui ont pour mission d'évaluer la qualité des articles soumis, estiment tout simplement que l'article n'est pas intéressant. Selon eux, selon donc ces relecteurs, il aurait fallu étudier d'abord une structure plus simple et plus plane et non pas une surface accidentée comme l'avait fait initialement Benny Guerrero. Du surcroît, selon ses relecteurs, il aurait fallu s'assurer d'une quelconque manière que les échantillons de matière examinés n'étaient pas contaminés par l'atmosphère extérieure. Alors, le terme de contamination signifie en fait que les surfaces étudiées pourraient en fait comporter d'autres éléments que ceux prétendument étudiés. Par exemple, si vous étudiez de l'or, il ne devrait y avoir que de l'or et pas autre chose. Eh bien, les relecteurs affirmaient qu'il pouvait y avoir autre chose. Donc, en raison des molécules qui se trouvent dans le milieu ambiant. Et notamment, justement, il était couramment admis que l'air ambiant oxydait le silicium. De ce fait, selon les relecteurs, les inventeurs du STM, ils avaient présenté notamment une étude sur du silicium, pensaient avoir imagé une surface de silicium, alors que peut-être ils avaient tout simplement affaire à une surface d'oxyde de silicium. Donc certains scientifiques accusèrent même Benny Guerrero de fraude. Un professeur dont je tairai le nom, assez célèbre, envoya une lettre sur ce point à l'éditeur du journal Microscopie pour justement accuser Benny Guerrero de fraude. Et ce professeur s'appuyait, pour affirmer cela, sur les images de silicium 7x7 qu'avait réalisées par Benny Guerrero, que je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, cette lettre ne fut pas publiée finalement par cet éditeur. Au-delà de ça, il est vrai que la présentation des résultats de ces deux chercheurs à l'occasion des colloques donnait lieu à des pugilats verbaux. Je prends ce terme parce que c'est un terme qui a été utilisé par un des scientifiques que j'ai réalisé. Donc dans plusieurs entretiens, c'est une thématique qui est revenue souvent en physique des matériaux. Mais il y en a notamment un qui travaillait beaucoup avec le STM. Donc dans un entretien que j'ai réalisé il y a donc maintenant quelques années avec un directeur de recherche au CNRS en physique des matériaux, il m'a vraiment brossé un tableau de la situation à l'époque des premières présentations de Benny Guerrero. Et voilà ce qu'il dit, j'ai repris quand j'ai retranscrit cet entretien, sa citation. Donc ces images de STM hein, étaient au sens propre du terme incroyables. Personne ne pouvait croire que ces images représentaient bien ce qu'elles prétendaient représenter. Par exemple, les atomes d'or, on pensait qu'il s'agissait en fait de toute autre chose, que l'échantillon avait pu être contaminé. Bref, les images produites devaient résulter de la conjonction d'une multitude d'artefacts instrumentaux. Personne ne croyait vraiment à ces images, les discussions étaient vives lors des colloques. Et justement, il me parlait de véritables pugilats verbaux. Vraiment, c'était assez effarant. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est revenu et cet instrument a aussi été attaqué, justement, sur le fait de savoir sur le point de savoir qu'est-ce qu'il permettait d'imager, en fait, réellement. Bien sûr, on avait des images, ça c'était sûr, mais qu'est-ce que ça représentait ? Alors, l'absence de théorie. Dans le cas de, je vais commencer de nouveau par Galilée, dans le cas de la lunette de Galilée, bien qu'il eût annoncé la publication d'une théorie complète de sa lunette dans un ouvrage séparé, Galilée ne publia jamais cet ouvrage. Alors, comme le souligne Philippe Hamou, à nouveau l'historien auquel je me suis référé tout à l'heure, la thèse la plus communément admise actuellement par les commentateurs de Galilée est qu'en fait, s'il n'a pas publié cet ouvrage, c'est qu'il ne disposait pas d'un savoir relatif, d'un savoir théorique relatif complet, de la théorie optique complète relative au fonctionnement de sa lunette. Galilée fait bien appel à des éléments de théorie optique pour justifier le fonctionnement de sa lunette. Mais il s'agit de ce qu'on peut appeler, selon l'expression de Philippe Hamou, d'une optique de fortune. Et je le cite à nouveau. Lorsqu'on confronte les textes de qui chez Galilée traite du télescope d'un point de vue optique, ce n'est pas une théorie unifiée et cohérente qui se dégage. L'optique offre plutôt une série d'arguments circonstanciels, parfois polémiques, qui ne sont pas vraiment destinés à caractériser l'instrument concret que Galilée a entre les mains, mais plutôt à offrir une sorte d'idéalisation susceptible de le soustraire à toute critique. Donc vous voyez que là, visiblement, il y avait un problème de ce côté-là. Il en va de même pour le microscope à effet tunnel. Alors, l'effet tunnel était un phénomène quantique qui est connu depuis la fin des années 50. Donc, ça, c'était pas nouveau. Ceci dit, dans le cas du STM de Binigi-Rohrer, il n'existait pas, au moment où ils ont produit leurs premières images, de théorie permettant de rendre compte clairement du rôle joué par l'effet tunnel dans les images qu'ils obtenaient lors de leur première publication. Et les contributions théoriques furent rapportées non pas par Binigi-Rohrer, donc non pas par les inventeurs du STM, mais par des chercheurs qui appartenaient à d'autres équipes, et seulement en 1984. Ça n'est qu'en 1984 qu'on a compris, on a pu expliquer vraiment ce qui se passait et comment c'était produit. Donc il s'agissait de Garcia, Arman et Terzov. Donc vous voyez, là aussi, il y avait une théorie, on va dire, pas bien établie, quoi. Et puis, des résultats rentrant en contradiction avec les théories établies. Alors, dernière similitude, justement, ces instruments s'inscrivent vraiment en contradiction avec les théories bien établies à leur époque. Alors, dans le cas de la lunette de Galilée, évidemment, les découvertes qu'a effectuées Galilée grâce à sa lunette entraient en contradiction directe avec les dogmes de l'Église qui reposaient sur les postulats physiques aristotéliciens. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les déboires, les multiples péripéties que Galilée a eues avec le clergé de son époque, mais c'est vrai que ne serait-ce que les planètes médicéennes étaient un bon argument pour aller dans le sens des écrits de Copernic, qui n'avaient pas été interdits à l'époque, mais qui ont été interdits suite à ses observations. Au procès, parce que simplement ça donnait un bon argument justement pour un modèle héliocentrique et plus géocentrique. Bon, je pense que c'est une histoire que vous devez bien connaître. Dans le cas du STM, en fait, l'effet tunnel, qui est un effet quantique, entrait en contradiction avec les enseignements de la physique classique. Enfin, ce n'est pas tout à fait ça. Enfin, dans ma diapositive, je me rends compte. Le problème était que, justement, l'effet tunnel est un effet quantique, donc qui s'applique au monde de l'infiniment petit. Et aucun physicien ne pensait à l'époque qu'il était possible de produire et de maîtriser un tel effet dans un instrument macroscopique qui, lui, fonctionnait avec de la physique classique à grande échelle. Donc, pour les physiciens, c'était tout simplement inimaginable de construire un tel instrument. Pouvait-on construire un appareil donc macroscopique qui ne perturbe pas justement cet effet quantique qui n'existe que dans le domaine de l'effet de l'infiniment petit ? Pour ça, comme je l'ai écrit sur la diapo, c'était tout simplement irréalisable pour bon nombre de chercheurs, ça n'avait carrément pas de sens. Le second point, il y a un autre point peut-être aussi plus profond qui explique pourquoi le STM a été si controversé, en tout cas au début. Ça serait plutôt, les contradicteurs seraient, dans ce cas-là, n'auraient pas les mêmes croyances fondamentales propre au champ disciplinaire, qui en l'occurrence c'est la physique. Et je trouve que Binnig et Rohrbacher, je ne sais pas si je l'ai là, voilà, Binnig résume bien cette histoire de croyance fondamentale dans cet extrait d'interview qui a été faite en 2001, mais que j'ai aussi trouvé chez les physiciens des matériaux qui ont connu cette époque dans le laboratoire où j'étais. Donc voilà ce que dit Binnig, donc dans une interview de Binnig et Rohrbacher, là c'est Binnig qui parle. Mon opinion personnelle est qu'à cette époque, beaucoup de chercheurs considéraient l'atome comme essentiellement constitué de vide. On n'arriverait jamais à le manipuler. Alors, une démarche permettant d'approcher et manipuler les atomes avec une telle précision était contre-intuitive. Les chercheurs ne voulaient pas envisager cette possibilité, ils refusaient même d'en discuter, c'était comme un tamou, comme parler du diable. Voilà, vous voyez, là, donc là, c'est quelque chose d'encore plus fort, je veux dire, c'est vraiment une croyance, on dirait, si on parlait comme le philosophe des sciences, Holton, un thémata, on ne pensait pas qu'on arriverait un jour à maîtriser et à manipuler ou à imager à ce niveau-là, ces atomes. Donc, afin de conclure donc, cette partie consacrée aux similitudes qu'on peut établir entre l'invention du STM et puis de la lunette, donc, je vais résumer mon propos. Dans les deux cas, on a affaire à un instrument relativement novateur, qu'aucune théorie réellement consistante ne permet d'étayer. Dans les deux cas, les instruments révolutionnent des théories bien établies jusqu'à leur époque. Et finalement, dans les deux cas, les controverses qu'ils ont suscité, peuvent apparaître en un certain sens parfaitement légitimes aussi. Les contradicteurs de Binnig et Rohrbacher avaient aussi tout à fait été légitimement fondés à poser des questions, à se demander, puisqu'on n'avait pas de fondement théorique pour expliquer comment ça fonctionnait. Même si certains de leurs détracteurs étaient mus donc, par des intérêts ou doctrinaux tant de Galilée ou par des croyances fondamentales susceptibles de stériliser la progression de la recherche scientifique, il est notable que certains détracteurs, comme on l'a vu, ont parfois formulé des objections pertinentes auxquelles Galilée ou alors Binnig et Rohrbacher ont tenté d'apporter des réponses tout aussi pertinentes. Et donc on va voir maintenant justement quels sont les arguments qu'ont avancés Galilée, les inventeurs du STM, comment ils vont s'y prendre finalement, puisque à des époques différentes, ils vont quand même réussir à convaincre comme leur père. Donc je vais m'appuyer là-dessus sur les travaux de Alan Franklin. Alors, je passe à mon épistémologie de l'expérimentation. Donc, afin de me comprendre ces stratégies argumentatives, je vais m'appuyer, comme je l'ai annoncé précédemment, sur ce qu'Alan Franklin appelle une épistémologie de l'expérimentation et qui prend la forme donc, de 10 stratégies mises en œuvre par les scientifiques dans le laboratoire. Donc, cette liste a été constituée par Franklin de manière empirique. Je vous ai dit qu'il était physicien au départ, à partir d'un relevé qu'il a établi en considérant un très grand nombre de pratiques concrètes scientifiques. Et donc la liste n'est par conséquent pas close. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler sur Franklin, il y avait 9 stratégies, et depuis 2 ans, il en a rajouté une 10e. Donc vous voyez que ce n'est pas clos, et à mon avis, on pourrait peut-être en rajouter une 3e avec cette histoire justement d'utiliser des simulations dans certains domaines des sciences, mais enfin ça, c'est autre chose. Donc pour l'instant, elle n'est pas close. Elle pourrait très bien inclure des stratégies supplémentaires, donc dans les années à venir, soit parce qu'elles ont été identifiées comme telles par Franklin ou d'autres philosophes des sciences ou historiens, soit tout simplement, et ça je le pense pour le cas de la simulation, parce que de nouvelles stratégies peuvent émerger dans certains champs de la recherche scientifique et servir donc aux scientifiques pour s'assurer de la plausibilité de leurs résultats. Donc les 10 stratégies ont 2 fonctions, donc qui constituent la liste actuelle, 2 fonctions. D'une part, permettre de distinguer les observations pertinentes des artefacts potentiels, ce qui fournit donc aux scientifiques de bonnes raisons de croire en leurs résultats expérimentaux. Et la deuxième fonction, ces stratégies vont se transformer en arguments dès lors qu'il s'agit d'attester, dès lors que quelqu'un se sent attaqué, un scientifique se sent attaqué, d'attester de la validité d'observations qui sont par ailleurs rejetées par les pairs. Donc d'abord, c'est à usage interne, si vous voulez, et puis, dans certains cas, ça devient un usage externe, je veux dire, vers un public plus large. Donc je vais présenter ces 10 stratégies avec des exemples, pour pas que ce soit trop sec, mais je ne vais pas prendre les exemples de Franklin lui-même, parce que ces exemples à lui sont empruntés très majoritairement à la physique des hautes énergies, et parfois il les développe très longuement, et parfois même sous forme d'articles et même d'ouvrages, donc je vais prendre d'autres exemples dans d'autres domaines des sciences, parce que sinon ça serait trop long. Alors, voilà. Première, donc là, il y a les 5 premières. Donc, première stratégie identifiée par Franklin, les vérifications expérimentales et les phases de calibration durant lesquelles un instrument reproduit un phénomène connu. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple tout simplement en astrophysique. Lorsqu'un astrophysicien souhaite s'assurer que son télescope est performant, il peut observer donc une source céleste connue et comparer les données qu'il a avec son télescope sur cette source céleste avec d'autres données fournies par d'autres télescopes à peu près équivalents. Donc là, on a quelque chose de connu et on compare. Deuxième stratégie, la reproduction des artefacts connus par avance. Ici aussi, je vais prendre un exemple en astrophysique courant. Donc vous savez donc tous, je suppose, que depuis une vingtaine d'années, on va dire que le recours aux plaques photographiques a été largement abandonné et puis maintenant on se sert de plaques photographiques. Donc, on a remplacé les plaques photographiques par des caméras CCD. Mais ces caméras produisent toutes un certain nombre d'artefacts qui sont indésirables quand elles fonctionnent. Alors, afin de repérer ces artefacts qui sont inévitables, qui sont intrinsèquement liés au fonctionnement de ces caméras CCD, les astrophysiciens procèdent par exemple à un enregistrement fermant le dôme du télescope et en éclairant par exemple une zone sur le dôme du télescope de manière uniforme. Donc là, ils n'enregistrent pas de source céleste particulière, ils observent juste une image uniforme de l'intérieur du dôme, et puis ça leur permet, cette image, de repérer des pixels qui seraient défectueux, et une fois qu'ils les ont repérés, eh bien, ils les enlèvent, ils les soustraient après des observations réelles, enfin des données réelles qu'ils font sur des objets célestes. Donc ça permet de repérer un artefact qu'on connaît, on sait qu'il y en a, et de le repérer. Troisième stratégie, l'élimination des sources d'erreurs plausibles et l'élimination des possibles explications alternatives qui permettent d'expliquer un phénomène. Donc là, par exemple, typiquement en pharmacologie, dans le laboratoire où je suis en ce moment, eh bien, on cherche, ça ne marche jamais, il faut dire, pratiquement jamais du premier coup, et à chaque fois on regarde évidemment toutes les erreurs instrumentales ou surtout manipulatoires qu'on a pu faire, ne serait-ce que mal pipeter par exemple dans un puits, etc. Donc on essaye de remonter la chaîne des actions qu'on a faites pour essayer de voir où est-ce qu'on a pu éventuellement se glisser une erreur. Après, le recours à expérimentaux en eux-mêmes pour étayer la véracité d'un phénomène, je ne vais pas la détailler parce que c'est celle que va utiliser Galilée, donc je vais revenir sur celle-là tout à l'heure. La phase d'intervention, la cinquième, durant laquelle l'expérimentateur manipule un objet étudié. Alors, par exemple, en biologie, lorsque vous effectuez des micro-injections, c'est la petite image que vous avez là, dans une cellule, vous pouvez voir grâce à votre microscope ce que vous faites. C'est-à-dire que même si ça se passe à une très petite échelle, vous pouvez voir la micro-aiguille perforer la membrane de votre cellule et puis vous pouvez même voir les gouttes pénétrer. Donc vous pouvez vraiment vérifier en intervenant ce que vous êtes en train de faire. Sixième stratégie. Le recours à des corroborations expérimentales fondées sur d'autres expériences. Alors je vais prendre un exemple là, qui est aussi emprunté à l'histoire de la médecine. Tout à fait contemporaine, avec la découverte d'une bactérie, vous avez peut-être entendu parler, Helicobacter pylori, qui est en fait actuellement connue comme la bactérie qui cause la plupart des gastrites et des ulcères. Et donc cette bactérie a été découverte par Robin Warren et Barry Marshall en 1982, ils ont eu le prix Nobel de médecine en 2005 pour cette découverte. Et jusqu'à ce moment, donc jusqu'en 82, les gastrites et les ulcères d'estomac étaient supposés être causés par un excès d'acidité dans l'estomac dû à un stress ou un mode de vie. Et les médecins pensaient également qu'aucune bactérie, aucun être vivant d'ailleurs, ne pouvait survivre dans un milieu aussi acide que celui de l'estomac. Donc Warren et Marshall, eux, ont constaté qu'il y avait quand même cette bactérie qui était présente dans la plupart des estomacs des patients qui souffrent de problèmes d'estomac. Et ils ont naturellement inféré que cette bactérie pouvait être peut-être la cause justement de ces maladies gastrites et ulcères. Ce qui était à l'époque, pareil, pour le moins assez révolutionnaire, parce que ça faisait passer la catégorie des maladies gastrites et ulcères, qui étaient des maladies psychosomatiques, dans la catégorie des maladies infectieuses. Donc c'était quand même assez aussi... ils ont eu un peu de mal au début à se faire entendre. Donc ils procèdent donc à une série d'expériences afin de convaincre aussi la communauté médicale, pour le moins circonspecte, vous l'avez compris. Donc je ne vais pas détailler toutes les expériences, je vais juste en prendre deux pour vous montrer qu'ils ont mobilisé deux types d'expériences. Donc, afin de respecter les postulats de corps, hein, qui remontent à la microbiologie, enfin, pour montrer qu'un agent est pathogène, hein, ben, corps Pasteur, ils ont donc isolé d'abord la bactérie, ils ont cultivé cette bactérie, et puis, évidemment, comme on fait actuellement, ils ont tenté de l'inoculer à des animaux. En l'occurrence, c'était des porcs, et rien à faire, les porcs ne tombaient pas malades. Il n'y avait rien à faire, ils refusaient de tomber malades. Alors, devant cet échec, l'un des chercheurs, qui est Marshall, après s'être fait examiner son estomac par une biopsie, comme on le fait actuellement, donc on s'est assuré qu'il n'avait pas de bactéries, qu'il n'était pas porteur d'Helicobacter pylori, il avale une culture de ces bactéries et puis il attend une semaine, il commence à développer des symptômes d'une gastrite, donc il commence à vomir, etc. On lui fait une nouvelle biopsie, cette fois-ci il est porteur de cette bactérie, et évidemment il ne pousse pas l'amour de la science à attendre 12 ans, c'est-à-dire à peu près le temps qu'il faut pour développer un ulcère. Il prend un antibiotique et puis il éradique la bactérie et il se soigne. Donc après, pendant très longtemps, pendant des années, on les a soupçonnés en disant bah, « vous avez prouvé pour la gastrite, mais pas pour les ulcères bon. ». C'est pour la petite histoire. Donc ça, c'est un type d'expérience classique. Enfin, il l'a fait sur lui-même, normalement on le fait sur les animaux. Deuxième type d'expérience qui va corroborer leur première expérience, c'est un essai clinique. Donc un essai clinique, c'est un moment où on teste un médicament, hein, en double aveugle, auprès de 100 patients donc, qui étaient atteints de gastrite et d'ulcère d'estomac, dans lequel on avait évidemment repéré la bactérie. Et cette hypothèse que la bactérie était en fait cause des gastrites et des ulcères avait permis de formuler une autre hypothèse, c'est que les antibiotiques, tout simplement, constitueraient un moyen curatif potentiel. Et c'est ce qui fut fait pendant cet essai clinique, et c'est ce qui a permis, après il y en a une douzaine d'essais cliniques différents, de montrer que, effectivement, cette bactérie a été très probablement, parce que c'est, comme ils n'ont pas réussi à remplir pleinement les postulats de corps, parce qu'ils n'ont pas fait de tests animaux, très probablement le vecteur pathogène des gastrites et des ulcères. Donc avant, on soignait très souvent ces gastrites et ulcères avec des antiacides. Maintenant, on soigne très souvent, on donne des antiacides, mais on ajoute des antibiotiques pour éradiquer la bactérie. Donc vous voyez que c'est des opérations, des expérimentations relativement différentes, puisque un essai clinique, ça n'est pas du tout un test en laboratoire. Hein, et donc c'est comme ça qu'ils ont réussi finalement à convaincre la communauté médicale. Septième stratégie, le recours à une théorie indépendante est bien corroborée par ailleurs. Alors là, je vais évoquer la datation des fossiles. Cette datation des fossiles a été est toujours assez importante, la manière de dater ces fossiles. Pourquoi ? Parce que cette datation des fossiles est importante dans la controverse qui oppose les tenants de l'évolution donc prônée depuis Charles Darwin aux créationnistes qui prétendent évidemment que l'être humain a été créé il y a 6000 ans ou quelques milliers d'années. Donc évidemment, la question de la datation des fossiles constitue un enjeu particulièrement vif entre ces deux théories. Si les fossiles remontent effectivement bien à des millions d'années, on peut dire que les thèses créationnistes seraient en quelque sorte battues en brèche. Et en effet, depuis quelques décennies, certains créationnistes reprochent aux évolutionnistes la circularité de leur démarche lorsqu'ils recourent à la datation grâce aux strates géologiques dans lesquelles les fossiles sont incorporés. Parce qu'au début, on a daté les fossiles comme ça. En effet, les fossiles se trouvent donc dans des couches, c'est pour ça que je vous ai mis des couches sédimentées, de roches que l'on peut distinguer à l'œil nu. Elles sont déposées par les océans et l'érosion. Et donc, la profondeur de chaque couche, si vous voulez, indique finalement son âge. Dans les couches les plus profondes, on va trouver les fossiles les plus anciens, vieux parfois de quelques millions d'années. Et puis quand on remonte, on a les plus récents. L'argument de circularité de la justification est alors invoqué par les créationnistes. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, c'est bien simple, les fossiles sont datés en considérant leur localisation dans les strates, dans les couches sédimentées du sol, mais vous datez ces couches elles-mêmes en considérant le type de fossiles que vous y trouvez. Donc c'est complètement circulaire, et les scientifiques ont réussi partiellement à briser cette circularité en recourant à d'autres moyens de dater donc ces strates sédimentées du sol et puis ces fossiles, en utilisant la radiométrie, qui n'a rien à voir avec la théorie de l'évolution, ni avec les fossiles, et en recourant notamment au carbone 14. Et donc, maintenant, on peut avoir une idée assez précise, justement, de la date, de l'âge de ces fossiles. Donc vous voyez que la théorie de la radiométrie n'a rien à voir absolument avec les thèses, enfin la controverse entre les créationnistes et Charles Darwin, mais ça permet quand même d'avoir un argument, en tout cas pour les évolutionnistes. Huitième stratégie, le recours à des instruments reposés sur des théories bien corroborées par ailleurs. Dans ce cas-là, il s'agit d'utiliser un instrument qui repose sur une ou des théories qui ont fait leurs preuves. Par exemple, en physique des matériaux, il est très courant pour une même étude non seulement d'utiliser plusieurs microscopes, je sais pas, le microscope électronique à transmission, le microscope à effet tunnel, d'utiliser de la spectroscopie OG, etc., etc. Donc ce sont des instruments qui reposent sur des principes relativement différents. Et c'est ce que j'ai appelé dans certains de mes travaux en fait l'interinstrumentalité. C'est très important aussi bien en physique des matériaux qu'en astrophysique. Donc l'interinstrumentalité, c'est donc le fait de recourir à des instruments conçus sur des principes physiques différents qui apportent de ce fait une information physique spécifique, ça peut être une information magnétique, structurale, chimique, sur un objet d'étude particulier. Neuvième stratégie, c'est le recours à des arguments statistiques. Alors, par exemple, en physique des hautes énergies, on cherche des nouvelles particules. Et une des techniques habituelles pour détecter ces particules est justement le traitement statistique des données. C'est grâce à des traitements statistiques de données que les physiciens ont conclu, notamment, qu'on avait bien détecté des quarks. Et c'est vraiment en utilisant massivement les statistiques qu'on a réussi à identifier cette particule. Et dernière stratégie qui a été rajoutée plus récemment, c'est l'analyse des données en aveugle. C'est-à-dire qu'on a des données, on les fait analyser. C'est plutôt utilisé d'ailleurs en physique que dans d'autres domaines. Et on les fait analyser par deux laboratoires différents. Alors voilà, j'en ai fini avec cette liste. Et maintenant, on va voir, je vais me servir de ces stratégies pour vous montrer, pour essayer de vous convaincre que c'est... En tout cas, certaines d'entre elles ont bien été mobilisées et c'est bien ces stratégies qui ont permis de convaincre les détracteurs de Galilée et de Beni Guérère. Alors, les stratégies, je vais prendre passer par Galilée. Alors évidemment, au temps de Galilée, on est au début de la science moderne, il y a beaucoup de stratégies simplement qui n'étaient pas disponibles tout simplement au temps de Galilée. Donc voilà, il y en a 8 qui n'étaient pas disponibles, donc il ne pouvait pas, Galilée hélas, reproduire des artefacts connus par avance, il aurait fallu qu'ils connaissent bien la théorie hein, déjà pour comprendre pourquoi l'artefact était là. Il ne pouvait pas plus manipuler des objets célestes, hein, donc ça va de soi. Le recours à des corroborations expérimentales fondées sur d'autres expériences n'avait rien de comparable à l'époque de Galilée. Maintenant, on pourrait sans doute trouver des choses, par exemple, dans les accélérateurs de particules, etc., mais là, non. Éliminer les sources d'erreurs plausibles, l'élimination des possibles explications alternatives permettant d'expliquer un phénomène pareil. Là, il faut bien connaître son instrument et sa théorie. Le recours à une théorie indépendante et bien corroborée par ailleurs, pas plus. Un instrument qui reposerait sur des théories bien corroborées par ailleurs à l'époque, non plus. Les arguments statistiques n'existaient pas, tout simplement pas mis au point. Et l'analyse en double aveugle, ça n'avait littéralement aucun sens, puisque les données n'étaient pas enregistrées automatiquement, puisque c'était des schémas, enfin des croquis, qui étaient parfois d'ailleurs très différents. Quand on regarde les lunes de Simon Mayr, de Thomas Harriot et celles de Galilée, on n'a pas toujours les mêmes, on se demande si c'est le même objet. Enfin, donc voilà, tout cela, il ne peut pas. Il y en restait deux quand même, qui va mobiliser avec profit. Donc voilà les deux stratégies disponibles, ce sont les vérifications expérimentales et les phases de calibration durant lesquelles un instrument reproduit un phénomène connu. Et puis la deuxième stratégie, c'est le recours aux résultats expérimentaux eux-mêmes pour étayer la véracité d'un phénomène. Et ce sont bien ces deux stratégies, vous allez voir, que Galilée va mettre en œuvre et qui vont réussir finalement à convaincre ses pairs. Donc pour la première stratégie, il va s'appuyer justement sur des phénomènes connus. Quand je fais des phénomènes connus, eh bien, il va d'abord faire observer par des témoins des objets terrestres, tout simplement, des bateaux, des objets tout à fait terrestres. Rappelons que même ses plus fervents contradicteurs, et notamment Martin Horky, dont j'ai parlé tout à l'heure, étaient prêts quand même à reconnaître que pour des observations terrestres, la lunette faisait merveille. Donc même ceux qui étaient contre cette lunette pour les planètes médicéennes étaient prêts à reconnaître que pour les objets terrestres, ça marchait bien. Galilée, une fois qu'il a pris des objets terrestres, va ensuite s'attacher à étudier un objet clairement visible à l'œil nu, la Lune. Tout un chacun pouvait constater par lui-même que la Lune n'était pas de couleur uniforme, il y avait des zones claires et des zones sombres. Ces constatations étaient en fait confirmées par le recours à la lunette. En regardant la lunette, on voyait bien qu'il y avait des zones claires et des zones sombres sur la Lune, Je ne parle pas de l'interprétation qu'en fait Galilée après, je parle juste du rapport d'observation. Et en fait, la plupart des observations d'objets célestes faites à l'œil nu, qu'on voyait à l'œil nu, étaient à peu près cohérentes avec celles réalisées avec les mêmes objets sous la lunette. Donc il commence par des objets terrestres, après par des objets visibles à l'œil nu comme la Lune. Cette comparaison avec les observations à l'œil nu a joué un rôle crucial dans l'acceptation de la lunette. Même si cette dernière semblait produire des effets bien étranges et parfois contradictoires, nul ne pouvait nier qu'un certain nombre d'objets célestes visibles à l'œil nu l'étaient également avec la lunette. Le fait que les observations à l'œil nu soient en quelque sorte confirmées par celles effectuées à l'aide d'un télescope était crucial, mais non suffisant pour convaincre les sceptiques. En effet, rien ne garantissait en principe que les problèmes liés à la lunette, problèmes dont l'ensemble des protagonistes étaient conscients, y compris Galilée lui-même, ne produisent pas des illusions d'optique quand il s'agissait d'observer des objets invisibles à l'œil nu, comme justement les planètes médicéennes. Alors c'est là que Galilée va recourir à la deuxième stratégie, c'est le recours aux résultats expérimentaux eux-mêmes pour étayer la véracité d'un phénomène. Et c'est ce qu'on va voir dans cette longue lettre, quand on le presse justement de répondre à ses contradicteurs, il va écrire dans cette longue lettre qu'il adresse à Pierre Audini, je vais la citer assez longuement parce que je la trouve assez intéressante à plusieurs titres. Voilà ce que répond Galilée. Il va s'appuyer sur ses multiples résultats et les résultats des autres. J'ai fait de mon instrument, ou plutôt avec plusieurs dizaines de mes instruments, des centaines et des milliers d'expériences sur des centaines et des milliers d'objets, proches et lointains, grands et petits, lumineux et obscurs. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait me croire assez simple pour être resté dupe de mes observations. Et il ajoute, dans le reste de la lettre, je ne l'ai pas reproduite parce qu'elle est assez longue, j'ajoute que ce n'est pas seulement ma lunette et celle que j'ai fabriquée qui font voir les quatre planètes jupitériennes, mais toutes les autres, faites en quelque lieu que ce soit et par quelque procédé que ce soit, pourvu qu'elles soient travaillées et qu'elles montrent les objets agrandis et distincts. Et avec tous ces instruments en usage partout, on voit ces planètes affectées de mêmes mouvements et de constitutions rigoureusement identiques, si bien que ceux qui s'obstineront à soutenir que ces phénomènes sont des illusions auront fort à faire à trouver les raisons pour lesquelles tous les instruments, grands et petits, longs et courts, s'accordent ainsi à produire les mêmes apparences fallacieuses et à les montrer toujours, alors que les objets visibles sont innombrables dans le voisinage de Jupiter. Je dirais même mieux, si quelqu'un croyait pour de bon qu'il fût possible de fabriquer une lunette ayant la propriété de faire apparaître par illusion autour d'une étoile, d'une lumière ou de n'importe quel objet particulier d'autres lumières ou une multiplicité d'autres figures qui en réalité n'existeraient pas et dont l'apparence trompeuse se montrerait autour d'un certain objet et non d'autres, que cet homme-là se mette en devoir de fabriquer pareil instrument car je m'engage, moi, à lui faire payer 10 000 écus. Donc vous voyez que là, il enfonce le clou. Alors ceci, c'est vraiment le cœur de l'argumentation galiléenne, c'est-à-dire que, dit autrement, des observateurs différents, situés dans des endroits différents, utilisant des télescopes corrects, ont pu observer les mêmes tâches près de Jupiter et seulement près de Jupiter. De plus, ces mêmes observateurs ont pu constater que l'emplacement de ces tâches évoluait de nuit en nuit. Par exemple, la première nuit, on les observait à droite, alignés à droite de Jupiter, puis de nuit, plus tard, on les trouverait à gauche. Ceci montre clairement, selon Galilée, que ces tâches ne sont pas des artefacts produits par sa lunette. Dans l'argument proposé par Galilée ci-dessus, il faut souligner que la qualité des témoins joue un rôle prépondérant. Et le fait que des témoins dont l'autorité était reconnue par leur père et observaient à leur tour des planètes médicéennes est extrêmement important à l'époque de Galilée. Ce statut de témoin à l'époque de Galilée a été bien souligné par Christian Lycop, qui est un historien qui a travaillé dans son ouvrage « La formation de la pratique scientifique », qui est paru en 1996, et il étudie justement la lente émergence de la notion d'expérimentation, et à travers elle, celle de la preuve expérimentale. Donc Christian Lycop, je vais juste m'arrêter 2 minutes sur cette histoire de témoignage, parce que c'est assez intéressant, et c'est quand même une différence après avec Bini Greuer des années 80. Donc Christian Lycop définit 3 phases, celle de la curiosité, à partir du XVIIe siècle, donc l'époque de Galilée, celle de l'utilité dont je ne parlerai pas, fin du XVIIe, et celle de l'exactitude à partir du XVIIIe siècle. Ces 3 phases définies par Lycop constituent selon lui une rupture importante avec les sciences depuis l'Antiquité et ont constitué un facteur déterminant dans la naissance des sciences modernes. Christian Lycop décrit ce lent travail effectué par les philosophes naturels afin de se démarquer d'autres champs de recherche. Ainsi, dans la première période, celle de la curiosité, qui correspond à l'époque de Galilée, l'une des difficultés rencontrées par ces nouveaux philosophes naturels, c'est-à-dire ces physiciens, est de se démarquer de la doctrine aristotélicienne omniprésente à l'époque. La physique aristotélicienne reposait sur des données empiriques, données qui pouvaient s'obtenir par l'observation au jour le jour et non par l'expérimentation. L'expérimentation, quant à elle, résulte d'une mise en scène particulière, produite de manière tout à fait artificielle et qui se heurte en général à des difficultés de reproduction. Par conséquent, pour ces philosophes naturels, il s'agissait avant tout de convaincre les tenants de la physique aristotélicienne de l'époque que ces faits, bien qu'artificiels, produits avec des instruments comme avec la lunette ou la pompe à air, enfin ce genre d'instruments et locaux, étaient plus intéressants finalement que les observations réalisées au jour le jour, certes accessibles à tous, mais ne permettant pas de progresser sur la voie de la connaissance. Ce passage n'a pu se faire qu'en s'appuyant sur des manifestations spectaculaires, faisant appel à un public de personnes éclairées. Citons Lycop à ce propos, alors je le cite, « Il faut dire que le problème posé à l'expérimentateur était de cautionner un fait étonnant et singulier, la parole d'un aristocrate témoin du fait pèse lourd vis-à-vis de la masse des érudits, plus encore sans doute que la présence d'autres sympathisants de la communauté expérimentale. » On accorde donc une importance capitale, à l'époque de Galilée, au fait que telle personne, qui a la qualité de duc, prince ou autre chose, c'est-à-dire un certain statut social, soit présente. C'est l'ère du « je vis et je fis », comme dit Christian Lycop, l'ère de la curiosité. Et à l'époque de Galilée, on le voit, je suis revenue de nombreuses fois sur ces témoignages, les témoignages sont vraiment primordiaux, soit des témoignages directs, mais également des témoignages indirects via les rapports écrits ou les lettres qui s'échangeaient. Galilée s'est appuyé sur les dires de témoins dignes de foi pour l'époque, non interchangeables, contrairement à la science moderne où normalement les relecteurs devraient être dans l'absolu, on va dire, interchangeables, mais au contraire dotés d'une dignité particulière. Ainsi, parmi les témoins jugés comme dignes de foi, à l'époque, on trouve donc Kepler et Magini, qui sont des astronomes, mais on trouve aussi, par exemple, le grand-duc Cosimo II, qui n'était pas astronome. En effet, comme on l'a vu, et cela constitue une différence majeure avec le cas du STM, Galilée avait à sa disposition un nombre très très limité de stratégies sur les 10 répertoriées par Alan Franklin. La première n'était pas suffisante à elle seule pour convaincre les sceptiques, et la seconde repose sur le recours aux résultats expérimentaux eux-mêmes, permettant d'étayer la véracité du phénomène, et donc le fait que des témoins jugés comme compétents pour l'époque aient été en mesure d'observer les planètes médicéennes, s'est avéré crucial. Leur observation permettait d'étayer donc la véracité de ce phénomène. Donc la controverse s'est clos momentanément lorsque des témoins jugés dignes vont déclarer avoir observé ces fameuses planètes médicéennes, donc d'abord Kepler, je vous l'ai dit tout à l'heure, puis Clavius, les mathématiciens du Collège romain, et puis la controverse s'est calmée pour reprendre un petit peu plus tard sur d'autres sujets. Alors, maintenant voyons le STM. Un certain nombre de stratégies, on va voir que proposées par Alan Franklin n'étaient pas non plus envisageables pour Benny Grerorer, et ils vont mobiliser les autres, même si vous allez voir, vous avez plus le choix. Donc ils ne pouvaient pas non plus reproduire des artefacts connus par avance, parce que pareil, là, il fallait connaître la théorie, donc ils ne l'avaient pas, ils ne comprenaient pas exactement comment ça marchait. Le recours à des corroborations expérimentales sur d'autres expériences, eh bien non, pas vraiment, parce qu'il n'y avait rien qui permettait de visualiser à cette échelle-là vraiment ce qu'eux prétendaient visualiser. Donc c'était, ça pouvait aller dans ce sens, mais ce n'était pas exactement une corroboration. Le recours aux résultats expérimentaux en eux-mêmes pour étayer la véracité d'un phénomène, alors là, il aurait fallu que beaucoup de laboratoires se mettent à faire des expériences, ce n'était pas le cas. C'est très difficile de faire des échantillons, très difficile d'avoir du vide, etc., etc. à l'époque. Donc il n'y avait pas une foule d'équipes qui se sont mises, en tout cas dans un premier temps, hein, parce que ça a bien changé depuis. Tous les laboratoires dignes de ce nom ont un STM en physique des surfaces. Donc voilà, le recours à une théorie indépendante est bien corroboré par ailleurs non plus. Et le recours à des arguments statistiques non, parce que pour faire des statistiques, il faut avoir un point de repère pour pouvoir. Là, il ne l'avait pas. Donc bon. Donc en revanche, ils vont mobiliser les quatre restantes, donc, que j'ai numérotées, puisque je vais vous montrer dans leur publication que c'est bien celle-là qui mobilise. Donc, ils vont mobiliser celles consistant, donc je l'ai numéroté 1, les vérifications expérimentales et les phases de calibration durant lesquelles un instrument reproduit un phénomène connu par ailleurs. 2, l'intervention, durant laquelle l'expérimentateur manipule l'objet étudié. En fait, cette stratégie va être présente dans l'ensemble des publications que je vais brièvement évoquer, puisque les échantillons sont préparés notamment avant de passer dans le microscope, et en les examinant, ils peuvent voir, établir vraiment un lien avec ce qui a été fait justement en amont. Donc ce n'est pas une manipulation directe, hein, ce n'est pas comme ce que je vous ai montré tout à l'heure en biologie, mais on peut faire un lien avec le mode de préparation qui a été fait en amont. L'élimination des sources d'erreurs plausibles et l'élimination des possibles explications alternatives qui permettent d'expliquer un phénomène, vous allez voir qu'ils vont s'échiner à enlever le nombre toutes les erreurs et les perturbations possibles qui risquaient d'interférer avec leurs résultats, et puis le recours à des instruments qui reposent sur des théories bien corroborées par ailleurs. Alors on va se pencher sur leur publication de 81 donc à enfin de 82 à puisque celle de 81 a été refusée de 82 à 86. Donc j'en ai pris quelques-unes hein, parce qu'ils ont beaucoup publié. Donc dans Applied Physics Letters en 82, ils démontrent que les sources de vibration ont été suffisamment contrôlées, reproche qui leur avait été fait dans le rapport des relecteurs en 81, pour ne plus interférer avec les données produites. Ce faisant, ils manipulent leur échantillon en amont et puis ils éliminent une source d'erreur potentielle, donc on peut dire qu'ils mobilisent la stratégie que j'ai numérotée 2 et 3. Dans Physical Review Letters en 82, ils font appel à un autre type d'instrument couramment utilisé en physique des matériaux à l'époque, le LED, le Low Energy Electron Diffraction, afin de démontrer que les données obtenues avec le STN n'étaient pas que pure imagination. Donc il ne s'agit pas de montrer qu'on est à la même échelle, mais au moins montrer qu'il y avait quand même quelque chose, que c'était pas, parce qu'on leur reprochait justement. Ce faisant, ils recourent donc à un instrument, une technique, le LIDE, qui reposait déjà sur une théorie bien corroborée par ailleurs. Et à nouveau, ils manipulent leur échantillon, donc c'est les stratégies 2 et 4 qui sont mobilisées. Dans Helvetica Physica Acta, en 82, ils montrent que leur instrument, déjà, ne va pas supplanter d'autres instruments existants, parce que certains physiciens étaient un peu inquiets, mais venir plutôt en complément de ceux-ci. De plus, il propose les premières images d'une surface connue des physiciens des matériaux. C'est l'arrangement dit, c'est l'image que vous voyez là, 7 par 7 des atomes de silicium. De ce fait, donc, il mobilise la stratégie consistant à produire un phénomène qui est connu par ailleurs. Donc, c'était quelque chose qui était déjà étudié par ailleurs. Et puis, toujours pareil, la manipulation, donc la stratégie numéro 1 et 2. Dans Surface Science en 1983, ils simplifient techniquement leur appareillage et tentent de convaincre les physiciens des matériaux que leur technique pourrait être utile. Pour ce faire, ils étudient des échantillons d'or, de silicium aussi, des matériaux qui étaient déjà couramment utilisés dans ce domaine. Une fois encore, afin de démontrer que leurs résultats ne sont pas de pures illusions, ils recourent à d'autres appareillages ayant acquis une validité dans ce domaine scientifique. Donc les stratégies 1, 2, 3. Dans Surface Science Letters en 83, encore une fois, ils utilisent de nouveau des matériaux communs en physique des matériaux, et puis ils utilisent cette fois-ci de la diffraction à rayon X et de la microscopie électronique à transmission. Tout ça pour essayer d'aller dans le même sens que leurs données. Donc ça correspond aux stratégies 1, 2 et 4. En 84, ils sont beaucoup plus confiants dans leur technique, puisque d'autres chercheurs en 84 ont réussi à apporter la théorie qui leur manquait pour fonder ces observations. Donc ils ont un fondement théorique consistant à leurs résultats. Et puis ils s'attachent là du coup à rendre plus facilement reproductibles leurs observations. Donc dans une publication en 84 qui est parue dans Physica, ils soulignent que les problèmes de pointe du STM constituent la source principale des problèmes à l'époque, et donc ils vont s'employer à les résoudre, et donc ce sont des stratégies 2 et 3 qui sont mises à contribution. Et en 84, toujours dans Surface Science, ils travaillent sur des surfaces étudiées toujours communément en physique des matériaux, de l'or, en utilisant du LIDE, de la spectroscopie d'électrons rejets qui permet d'obtenir des informations chimiques sur les échantillons. Et la nouveauté, là, c'est qu'ils réussissent à faire tout ça sans avoir à bouger l'échantillon. Parce qu'avant, ils faisaient ça au STM, après ils sortaient leur échantillon, ils le refaisaient, ils le passaient au LIDE, dans la diffraction au rayon X. Là, dans le même bâti, ils ont enfin réussi à mettre donc un STM, un lead, et là, de la spectroscopie d'électrons EG. Donc l'argument consistant à dire qui est récurrent, vos échantillons sont contaminés, là, ne valait plus. C'est le même échantillon qui est utilisé pour, à travers ces trois techniques, donc dans un même bâti sous vide. Donc du fait, évidemment, on élimine des sources d'erreurs plausibles assez importantes. Et donc dans cette publication, ce sont les quatre stratégies carrément qui sont mobilisées. Enfin, dans Surface Science Letters en 1985, ils améliorent les images de la surface de silicium 7x7 et surtout, ils corroborent à nouveau les mêmes échantillons avec de la spectroscopie d'électrons EG, de la diffraction d'électrons lents, et puis c'est toujours la même chose, on recourt à de l'interinstrumentalité et on prend des surfaces connues par ailleurs. Et en 85, la confiance dans leurs résultats est désormais très élevée en raison du fait que d'autres équipes ont réussi cette fois-ci à produire des images équivalentes. Et dans un article de Europhysics Letters, il présente un STM de poche, très maniable, et il l'utilise pour examiner des échantillons de graphite qu'il compare avec le modèle théorique proposé par les théoriciens. Donc vous voyez bien qu'ils ont essayé de recourir systématiquement à ces quatre stratégies pour essayer justement de convaincre leurs contradicteurs. Alors pour conclure, ma présentation avait pour objectif de répondre à la question comment convaincre ses pairs de la pertinence des observations effectuées à l'aide d'un nouvel instrument. Donc j'ai retenu volontairement pour mon étude deux instruments révolutionnaires, à leur époque respective évidemment, qui présentent, je vous l'ai déjà dit, tous deux la particularité de ne pas reposer sur une théorie bien établie. Dès lors, on a vu qu'il y a eu des polémiques qui se sont développées, parfois des polémiques qui avaient des arrière-fonds doctrinaux ou des croyances fondamentales en contradiction. Il n'en reste pas moins, et ça j'insiste là-dessus, qu'un certain nombre d'arguments qui ont été développés par ces contradicteurs étaient tout à fait pertinents et que ça a poussé vraiment les inventeurs à se justifier et donc à produire des arguments également aussi évidemment pertinents pour convaincre leurs contradicteurs. Et que ces stratégies qui ont été mobilisées relèvent bien de l'épistémologie de l'expérimentation proposée par Alan Franklin. Alors ces stratégies ont en fait pour objectif d'établir des croyances justifiées. Je n'ai pas dit vrai, hein, j'ai dit des croyances justifiées. Les scientifiques peuvent recourir, et recourent hein, dans les laboratoires, à l'une d'entre elles, ou à plusieurs d'entre elles, en fonction du problème, parce qu'on peut appliquer ça à la au laboratoire dans les sciences du vivant, hein, auxquelles ils sont confrontés, et en fonction des moyens qu'ils ont à une époque donnée. Un point remarquable dans l'étude que je viens de faire, c'est que Binninger-Herrer et Galilée recourent, puisqu'ils sont en situation d'être controversés, de controverse, ils recourent à toutes les stratégies disponibles à leur époque. Donc ils prennent toutes ces stratégies. On peut imaginer que si ça n'avait pas été controversé, ils n'auraient peut-être pas recouru comme ça systématiquement à toutes ces stratégies. Et notamment, je pense que c'est en raison du caractère controversé de leur invention. Ceci dit, et ça Franklin le dit, et je suis d'accord avec, aucune de ces stratégies prises isolément ou en groupe, imaginons que pour une étude on remplisse l'ensemble de ces stratégies hein, de manière positive, aucune de ces stratégies ne garantit dans l'absolu la validité des résultats. On ne pourra pas dire avec une certitude absolue que même si on a rempli toutes ces stratégies sur un point, enfin sur un phénomène donné, le résultat est bon. Ça permet néanmoins de constituer des faisceaux d'éléments de preuve convergents que les scientifiques, évidemment, dans les publications, tentent de rendre le plus solide possible. Mais on n'arrive pas, c'est pour ça que je n'ai pas mis des croyances vraies justifiées, parce que la vérité, là, on en est, ou alors c'est une vérité, on va dire, provisoire et à crédit. Il serait sans doute intéressant, à mon avis, d'examiner avec cette épistémologie d'autres cas d'instruments révolutionnaires, afin de voir un peu quelles sont les stratégies qui ont été mobilisées. Et puis, à mon avis, on pourrait aussi faire une carte des stratégies disponibles en fonction des époques, parce que vraiment, les statistiques sont apparues à une époque. Évidemment, à l'époque de Galilée, il n'y avait pas de statistiques. Et donc, on les voit apparaître au fil des siècles. Et je pense que ça serait intéressant de continuer là-dessus. Donc voilà, je vous ai juste mis les références sur lesquelles je me suis un peu appuyée pour, comme je vous ai dit que je n'étais pas historienne, donc pour Galilée et pour Binninger-Herrer. Donc il y a un très beau site au MIT, aux États-Unis qui est consacré justement à cette invention, qui a été fait par Arne Eisenbruch au Dimner Institute of, for History and Science and Technology. Et puis sinon, il y a tout un tas d'écrits sur Galilée. Donc je peux vous laisser ça après sur la diapositive. Je crois que j'en ai mis encore là. Donc ça, c'est plutôt des sources de seconde main, on va dire. Mais c'est tout des articles vraiment intéressants, quoi, ou des livres. Et puis, j'ai sorti, je l'ai juste mis, deux articles que j'ai fait, un dans les génies de la science et puis un dans les cahiers d'histoire et philosophie des sciences, hors série. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire ce soir. Voilà, merci.
Merci, merci infiniment. Alors, maintenant, on attend des réactions. Ma première réaction, moi, c'est peut-être pour reparler de Galilée à nouveau, parce que cette année, donc, c'est une année particulière, en fait, les 400 ans. Et je trouve que ça remet bien en valeur, en fait, cet anniversaire-là, parce que par rapport à Galilée, il a plusieurs mérites. Vous les signalez, c'est pas le premier à utiliser une lunette. D'autres l'avaient fait avant lui. Et lui, il arrive à voir des choses que d'autres n'avaient pas vues. Pourtant, ils avaient le même instrument, quelque chose près. Second mérite, c'est d'arriver à prouver qu'il observait bien des choses. Et on a vu toutes les difficultés. Et même dans les stratégies annoncées, il y en avait une qui était même pas forcément admissible à l'époque, puisqu'il faisait l'expérimentation sur des choses terrestres. Et à l'époque, il y avait bien un dogme qui séparait bien les deux mondes, entre les mondes terrestres et le monde sublunaire. Donc après, voilà, c'est pas parce qu'on observe des choses sur Terre qu'effectivement, après, dans le ciel, on va avoir les mêmes phénomènes. Et là, on voit le mérite, en fait, de faire des découvertes, c'est d'arriver à voir des choses que d'autres ne voient pas, de croire peut-être en son instrument, et d'arriver à l'oral ou par ses écrits, arriver à prouver qu'on a effectivement raison. Par rapport à ça, moi, je voudrais... je ne sais pas si on a la réponse. Donc Galilée fait ses observations en 1609-1610. Il est condamné par la suite. Qu'en est-il alors de l'observation avec les lunettes en Europe, on va dire, au début du XVIIe siècle? Parce qu'un peu plus tard, mais ça se passe en Angleterre, en dehors du monde catholique, on est dans le monde protestant, Newton invente le télescope, donc il croit à nouveau à cette voie qu'on peut observer donc l'univers avec des systèmes d'optique. Qu'en est-il en fait en Europe, en France, en Italie, en Espagne, sur l'utilisation des lunettes? Est-ce que... c'était pas une question piège, c'était une question qui m'est venue comme ça.
Je sais que c'est Newton qui a vraiment finalement finalisé la théorie de... complète, je veux dire, c'est quand même Newton qui a quand même a fallu attendre quelques années,
oui,
je veux dire.
Oui, mais on est 50 ans plus tard.
Oui, 50 ans plus tard, donc il a fallu quand même pas mal de temps. Mais aussi, ce qui m'a aussi surprise, c'est que, parce que moi, en tant que philosophe des sciences, on entend très souvent dire que, et c'est parfois à juste titre, que les instruments sont des théories réifiées, c'est-à-dire qu'on a des théories physiques et puis après on les transforme en instruments. Donc on a d'abord la théorie et après on fait l'instrument et puis voilà. Et ces deux cas-là, je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement, on peut pas dire que ces deux inventeurs sont des... Il y avait d'abord la théorie et après ils ont fait l'instrument. C'est plutôt un peu une sorte de bricolage, très astucieux, hein, je veux dire. Et après la théorie s'est chargée de venir vraiment compléter le tout. Donc je trouve rien que pour ça. Alors, pour votre question, c'est vrai que je ne suis pas... mais c'est quelqu'un d'autre.
Et moi, ça me fait penser en fait à ce qui s'est peut-être passé au niveau de Pierre et Marie Curie à l'époque où ils travaillaient en fait sur un appareil qui était capable de mesurer des intensités électriques très faibles, des tensions très faibles, alors qu'à l'époque on commençait à construire des machines où on avait besoin de mesurer autant les tensions que les intensités en centaines de volts ou en milliers de volts, et eux cherchaient des microvolts et grâce à ça ils ont découvert donc la radioactivité. Je trouve que là aussi il y a une comparaison qui pourrait être intéressante à explorer. Je veux pas monopoliser la parole. C'était pour essayer de rebondir par rapport à vos impressions de ce que vous avez entendu.
Je ne suis qu'un analphabète en matière de physique et tout. Enfin, je voudrais savoir comment les inventeurs du STM ont résolu, entre guillemets, la contradiction que vous avez présentée, enfin, qu'on présentait au départ entre les phénomènes quantiques, donc qui touchent la matière infinitésimale, minime, mm-hmm. et puis disons la, enfin, le, la massivité entre guillemets du, de l'instrument.
Ils n'ont pas vraiment résolu. Ils ont, je veux dire, c'est pas, théoriquement, ce n'est pas eux qui ont... en fait, au début, comme je l'ai dit, ils ne voulaient pas du tout faire un microscope. Hein, ce n'était pas du tout, du tout, mais alors absolument pas leur projet. Et c'est amusant, enfin, amusant de voir... ils décrivent bien dans, dans leur interview, les historiens qui se sont intéressés à la question, comment petit à petit, il leur a fallu plusieurs semaines pour comprendre qu'en fait, ils faisaient de la spectroscopie au début. Et donc, pour comprendre que finalement, on pouvait se servir de cette sonde aussi pour autre chose que de la spectroscopie et qu'on pouvait obtenir de, d'autres informations. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas justement le... Ils s'étaient basés sur l'effet tunnel, donc ils savaient qu'ils mettaient en œuvre un effet tunnel. Mais pour passer de l'effet tunnel à une description topographique, ils comprenaient, ils voyaient bien que ça avait l'air de donner ça, mais le fondement théorique même de l'appareil, ils ne l'avaient pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de contradictions. C'est qu'en 84, et c'est même pas eux, c'est ça qui est amusant, que je trouve piquant, c'est même pas eux qui l'ont apporté, c'est une autre équipe qui s'y est mise, donc qui a pris au sérieux finalement leur travail, leur invention, et puis qui s'est dit, bon, bah, on va essayer quand même de, bah, de, d'apporter le fondement finalement théorique. Mais c'est vrai que depuis, ces instruments sont... Ça, enfin, je ne sais pas s'il y a des physiciens ici, mais on en trouve à peu près dans tous les laboratoires. Et d'un, ne pose plus aucun problème. Je veux dire, ça paraît évident maintenant que ça fonctionne comme ça. Il n'y a plus de problème théorique, on ne se pose plus de questions. On se pose par contre toujours des questions de, d'artefacts, parce qu'évidemment, ce sont des instruments très sensibles aux vibrations. Il faut un vide ultra poussé, enfin, tout, toutes ces choses-là. Ça, c'est toujours des questions qui sont à l'ordre du jour, mais le fondement même, non. Ça, c'est... Donc c'est en passant par la spectroscopie et en utilisant un effet quantique pour la spectroscopie, ce qu'on faisait déjà à l'époque, et puis en se disant, bah tiens, ça, ça donne aussi autre chose, visiblement, ça donne des informations sur topographique, mais à une échelle cette fois-ci nanométrique, à l'échelle de l'atome. Quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, enfin, je veux dire, bon, il y a... enfin, vous avez répondu sans y répondre, parce que... La question originelle, c'était comment se fait-il que quelque chose qui est gros, qui est, enfin, qui est de l'ordre de la physique en général, si je puis dire, et à quelque chose qui est de l'ordre du quantique, ça aille ensemble. Hein. C'était ça la question au départ.
Oui,
maintenant, il n'y a plus de questions.
Oui. Mais
oui. Comment on est arrivé, enfin, je veux dire, y a pas, comment on est arrivé finalement à lier les deux?
On y arrivait par la théorie, en liant, en comprenant ce qui se passait exactement. Mais ceci dit, je veux dire, les physiciens, ça ne les dérange pas. Ce qui me fascine chez les physiciens, c'est qu'ils sont assez pragmatiques. Sont pas du tout, ils sont prêts à changer de modèle une fois la lumière est corpusculaire, une fois elle est ondulatoire. Enfin, ça ne les dérange pas du tout. Et on prend... c'est un peu la même chose dans ce cas-là. Quoi. Une fois qu'on a trouvé le fondement théorique, qu'on a fait le lien donc, pour cet instrument... C'est accepté, je veux dire, c'est jusqu'à preuve. Donc, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans toutes les sciences, hein, je veux dire, dans tous les domaines. Mais les physiciens sont assez, ils sont assez prêts à changer de modèle facilement pour que ça marche, je veux dire, pour arriver à des résultats concrets. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de, je veux dire, de l'horizon des croyances fondamentales en physique, ce qui est peut-être moins le cas dans les sciences du vivant, moins le cas dans d'autres sciences. On est moins prêt à changer de modèle. Un peu comme ça, puis à se dire, bon. C'est pareil en astrophysique, je veux dire, vous avez des astrophysiciens qui travaillent dans la théorie d'Einstein, là, pure et dure, et puis d'autres qui vont travailler en physique quantique, et puis tout se passe très bien. Hein, je veux dire, ça ne les dérange pas de changer de lunettes pour prendre en fonction du phénomène qu'ils étudient, ça ne les dérange pas de changer de lunettes, si je prends une métaphore. Et même si les lunettes ont l'air parfois incompatibles.
Oui, je trouve que pour le STM, la controverse n'a pas duré longtemps, parce qu'on avait des moyens à notre époque maintenant que Galilée n'avait pas à son époque. Bon. Alors, on peut comprendre que l'effet tunnel, on n'a pas de vérification directe, en plus la mécanique quantique et l'expérience détruit le principe de dualité détruit l'échantillon. Enfin, bon, on peut pas le reproduire.
Il n'y a pas de reproduction.
Mais, moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là avec la diffraction des rayons X sur les amas d'or. Et on le voit parce qu'il y avait le rayonnement synchrotron. Alors, le rayonnement synchrotron à Orsay, où j'ai travaillé, ou à Grenoble, c'est 10 puissance 10 fois la puissance d'un tube à rayons X. Donc on a tout de suite vu que c'était bien des agrégats d'or. En plus, la microscopie en transmission, et là, on en a un microscope, là, on les a vus aussi. Donc, c'était forcément ça. Parce que on a. Et quand vous dites que c'est une vérité vraie, moi, je dis que c'est une vérité absolue. Parce que non seulement on les voit, on a la diffraction des rayons X qui est suffisamment connue pour dire que c'est ça. Et non seulement il y a le STM, mais il y a l'ATM, microscope à force atomique, microscope à force magnétique, et puis il y en a, je ne sais pas combien. Hein. Donc... on a là une vraie preuve.
Oui, alors, pour la question de la vérité, je ne vais pas m'enfoncer dans... Il y a 25 siècles de philosophie. Alors, tout dépend de la conception que vous avez de la vérité. Si c'est une correspondance au réel, oui, pourquoi pas. Ça peut être une vérité cohérente, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit cohérent. Donc, dans ce cas-là, oui. Donc, là, on va dire oui. Les mathématiques, par exemple, c'est en ce sens-là qu'elles sont vraies, qu'elles font des connaissances vraies pour peu qu'on respecte, etc. Mais c'est vrai que dans les sciences de la nature, en général, il y a quand même toujours cet horizon de trouver autre chose, d'améliorer, donc on peut pas, il y a quelque chose, je veux pas dire que c'est pas vrai, je veux dire que c'est hautement, très 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 hautement plausible, mais vrai après, ça me dérange toujours en tant que philosophe d'employer ce mot parce qu'il est tellement lourdement connoté en, par contre pour la preuve, je suis d'accord, des éléments de preuve, ça fait une preuve quoi.
Parce que c'était un cas tout à fait particulier des amas d'or. L'or est un métal précieux qui... L'expérience a été faite dans l'air. Hein. Moi, les expériences que j'ai faites dans l'air, les amas d'or, sur un échantillon de verre, on passe le doigt dessus et ça s'en va.
Mmh. Oui,
Et on redépose de l'or. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Tandis que si on prend des échantillons biologiques ou sur du silicium, par exemple, forcément, il y a de la silice qui se forme. Mais maintenant, il faut travailler sous ultravide et on sait qu'il faut chauffer pour décaper la silice et pour faire... Mais en ce qui concerne les amas d'or, c'était un cas tout à fait le plus favorable.
Oui, bah c'est pour ça qu'ils l'ont pris d'ailleurs. Hein.
Ils n'ont pas fait exprès.
Après, non, mais au début, ils n'ont pas pris l'or. Mais après, ils ont quand même réfléchi. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on va pouvoir, parce qu'ils ne passaient pas à la publication.
C'était un Iberco qu'ils avaient au départ, non?
Je ne sais pas, c'était un truc compliqué. Hein. Au départ, ils avaient pris un truc un peu bizarre. Je ne sais plus, je pourrais retrouver, mais ils n'avaient pas pris l'or. C'est après, un ou deux ans après, qu'ils se sont dit. Si on veut convaincre, il vaudrait peut-être mieux quand même prendre des matériaux très connus par ailleurs, qui sont indiscutablement connus, comme l'or. Je veux dire, c'est pour ça quand je dis prendre un phénomène connu par ailleurs, l'or était vraiment connu en physique des matériaux. Bon, je ne sais pas si on dit déjà la physique des surfaces. J'ai vu passer, on est passé de la physique des matériaux à la physique des surfaces. Bon, enfin, était vraiment connu, comme vous le dites. Et c'est pour ça qu'ils ont pris l'or, mais pas au début. Ils n'étaient pas du domaine, de toute façon. Ce n'était pas, leur champ de recherche au départ. Et ça aussi, d'ailleurs, les historiens le soulignent, c'est qu'il y avait quand même une réticence de la part des physiciens, parce que ce n'était pas vraiment des... On les présente comme des physiciens, mais c'était surtout des ingénieurs. Ils n'étaient pas formés dans un cursus classique de recherche en physique. Et donc, c'était toujours un peu... Bon, enfin, en tout cas, au départ. Mais c'est vrai que la controverse a duré très peu de temps, mais elle a été assez vive, visiblement. Je veux dire, c'est...
Il y a une chose aussi, c'est que c'était IBM Zurich et que IBM avait suffisamment de moyens pour laisser se développer une recherche fondamentale, enfin une recherche pas forcément fondamentale, mais que des gens qui ont des idées, ben, ils pouvaient poursuivre. Tandis qu'à l'heure actuelle, on a des objectifs.
Alors pour rebondir là-dessus, puisque vous me tendez la perche, le SMA dont j'ai parlé, le radiotélescope dont j'ai parlé, l'interféromètre, c'était à Harvard. Et en fait, dans ces laboratoires d'astrophysique, ça ne fonctionne pas du tout comme chez nous. Enfin, je ne sais pas, ça a peut-être changé depuis. Le directeur du labo a 10% de la somme qu'on lui attribue, qui est assez conséquente, hein, et il en fait ce qu'il veut. Il prend des post-docs, il achète des instruments, et lui... Il avait décidé contre ses collègues, qui étaient directeurs, de faire un prototype de ce truc-là. Parce qu'il était sûr que ça marcherait. Et personne ne voulait mettre... Et c'était des sommes conséquentes. Hein. Donc, exactement, il a mis un doctorat. Il a dit, tu me fais un prototype. Je suis sûr que ça marche, que ça peut se faire sur Terre, sans le mettre, sans l'embarquer sur un télescope, un satellite, etc. Et donc, c'est un peu la même chose que... Et finalement, ça a été porteur. Ça aurait pu aussi ne pas l'être. Hein. Je veux dire, ça ne marche pas à tous les coups, mais on laisse cette liberté avec des sommes... conséquente, hein. Là, je veux dire, c'est vraiment c'est pas quelques millions de dollars, c'est vraiment des sommes très très conséquentes. Hein. Mais on laisse, et si ça marche pas, il n'y a pas non plus de couperet de l'institution qui dit bah, ça, votre essai n'a pas marché.
On ne pourra pas le refaire maintenant chez nous, parce qu'avec le grand emprunt, on va donner plein d'argent à la recherche.
Ça, j'y crois pas. J'espère. Les nanotechnologies sont à l'honneur. Donc, c'est...
Poser une question. En fait. Est-ce qu'un des, Est-ce qu'un des problèmes qu'ont eu aussi bien Galilée que les inventeurs du STM n'est pas d'avoir justement travaillé sur une science de l'image, donc qui permet d'avoir une image agrandie, améliorée de la réalité? Et est-ce qu'on a des exemples du même genre de controverse concernant des approches justement qui ne donnent pas une image, mais des techniques de spectroscopie, par exemple,
qui
ne donnent pas une image de la matière agrandie ou améliorée, mais qui permettent d'observer la matière par d'autres biais? Le fait qu'on observe, qu'on propose un instrument qui permet d'améliorer la vision qu'on a de la matière, je crois que c'est vraiment un point qui est...
J'avais jamais pensé, mais oui, qui est problématique, parce que les images, effectivement, moi, pour qui travaille dans les images, sont... on le sait, elles sont polysémiques, elles sont polysémiques. Vous êtes microscopien en transmission, c'est ça que vous avez fait ? J'ai passé des heures avec des... Et c'est absolument fou de voir les conversations qu'il y a autour d'un micro. Il y a plusieurs personnes, et les désaccords sur une même image, sur ce qui convient de voir sur l'image, comment on l'interprète, et c'est passionnant, on voit bien que ça n'est pas, même avec tous les éléments d'information, chacun a son background, chacun a ses compétences, etc. Et donc, c'est pas du tout évident. Donc c'est vrai que l'image doit redoubler, si vous voulez. Je pense qu'il doit y aussi y avoir... il y avait aussi une étude, par exemple, sur la température, où il y avait eu pas mal... Là, c'est pas une image, comment on mesure la température, il y a très longtemps. Il y avait aussi des controverses là-dessus. Mais je pense que l'image redouble, en fait. Rapporte des difficultés en plus. C'est-à-dire, quand on voit les lunes... Enfin, moi, ça me fascine, les croquis de... Les différents croquis par Galilée et d'autres astronomes, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se demande s'ils voyaient la même chose. C'est littéralement, on n'a pas l'impression, à part que c'est rond, mais sinon, il y a l'aspect dessin aussi, mais c'est vrai qu'on se demande s'ils avaient interprété, on voit clairement qu'ils n'interprètent pas la même chose, qu'ils n'ont pas la même chose en tête. Et donc c'est vrai que l'image redouble sans doute les discussions. Et puis c'est vrai que l'atome, comme le dit Binning, on voyait ça comme du vide, avec un noyau et puis des électrons très loin, puis essentiellement fait de vide. Il y avait bien sûr quelque chose, mais manipuler, pouvoir l'observer, ça paraissait farfelu, ni plus ni moins. Comme la bactérie là, qui provoque les gastrites et les ulcères, ça paraissait aussi tout à fait farfelu. Enfin, peut-être un peu moins, mais aussi, quoi.
Non, je posais la question parce qu'effectivement, en microscopie électronique, ce genre de controverse, on l'a
tous les jours,
quotidiennement, parce qu'on a des appareils qui aujourd'hui permettent de produire des images encore plus complexes que celles qu'on produisait ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Et en voyant ces images, on a envie, ayant une certaine connaissance de la matière, on a envie d'interpréter les images d'une certaine façon, sans forcément avoir la théorie qui va avec. Et ça mène à certaines controverses. Alors justement... Tout à l'heure, vous avez évoqué une stratégie peut-être émergente, qui est la comparaison à la simulation.
Ouais.
Et effectivement, aujourd'hui, en tout cas en sciences des matériaux, c'est probablement la stratégie la plus frappante quand on veut asseoir un résultat.
C'est à ça que je pensais, faire une simulation et comparer avec une image.
C'est-à-dire, on met un modèle d'un côté, voyons ce que nous fait le modèle, on a l'instrument, voyons ce que nous donne l'instrument, si on a la même chose.
Je pense que, je ne sais pas, comme c'est une liste qui est un peu qui est évolutive, comme je vous l'ai dit, je pense que, je ne sais pas, peut-être d'ici 10 ans, on rajoutera quelque part la simulation. Parce que c'est vrai, moi je l'ai vu en physique des matériaux, je l'ai vu en astrophysique, où ils font des images de simulation aussi, notamment pour les planètes extrasolaires, etc. Et je l'ai vu aussi en physique des hautes énergies, au LHC, où en fait c'est tellement cher de faire une expérimentation qu'on interprète par simulation, etc. Enfin, la simulation prend un véritable statut épistémique et permet de trancher entre, justement, en physique des matériaux, j'avais vu des images de physique de microscope électronique à transmission qui étaient contradictoires avec celles produites sur le même genre d'échantillon avec le STM, et c'est la simulation qui a permis de trancher en faveur de l'un ou de l'autre. Donc ça devient un statut tout à fait... particulier, c'est une stratégie pour se dire qu'est-ce qui est bon, et est-ce qu'après ça va sortir au-delà après pour convaincre d'autres, plus largement, ça je ne sais pas, mais je pense que c'est quelque chose qui, dans certaines sciences, j'ai pas du tout vu ça en pharmacologie, par exemple, la simulation en pharmacologie, ils n'en sont pas encore là, le vivant est tellement... c'est pas là, mais je pensais à la physique des surfaces, l'astrophysique, et je pense que dans 10 ans, on pourra rajouter une... il conviendrait de rajouter une stratégie supplémentaire, c'est le recours à la simulation. Oui, ça je suis d'accord. Oui. On peut faire la simulation climatique, là, on en entend. Oui, je sais.
Tandis qu'une simulation sur une surface d'un matériau...
C'est un système plus limité.
Et oui.
Parce que le climat, je suis toujours
On a l'image, et si on fait la simulation, on voit si ça correspond. Tandis que le climat, bon, il faut attendre 10 ans pour savoir ce qui sera dans 10 ans.
Hein. Oui, oui, oui. Et puis même le nombre de paramètres à prendre en compte, à mon avis, est tout à fait différent, même si c'est très difficile déjà en physique des surfaces. Mais dans les simulations climatiques, pour le peu que j'en connaisse, c'est très... il y a tout un tas de choses qui... même des paramètres, à mon avis, qu'on ne prend pas encore en compte et qu'on devrait prendre en compte, donc... c'est loin de... Évidemment, dans la simulation, ça recrache que ce que vous avez mis dedans. Hein. Donc, ça ne peut pas inventer... bon, donc... entre guillemets, ça recrache, évidemment, mais... Oui, voilà, exactement.
C'est peut-être une question un peu hors sujet, mais est-ce que dans les sciences dites humaines, on peut poser des problèmes un peu analogues ou est-ce que c'est complètement hors de saison?
Alors, vous pensez à quelles sciences? Parce que les sciences humaines, ça va des sciences économiques à l'histoire. C'est-à-dire ce genre de... C'est-à-dire ce genre de questions de controverses à propos d'instruments Ah bah oui, là il y a des controverses saignantes. Hein, je veux dire. Alors, mettons, il y a déjà une différence entre, à mon avis, les sciences exactes et les sciences humaines, c'est que les sciences exactes, de la nature, on va dire, pour ne pas dire exactes, ont un aspect cumulatif. Je veux dire, elles cherchent à cumuler, et on s'appuie sur les recherches des autres. Si vous prenez, alors pas toutes les sciences humaines, bon, les sciences cognitives, ça commence à avoir un aspect cumulatif, mais si vous prenez, je ne sais pas, la psychologie clinique, l'histoire même des sciences, je ne sais pas, d'autres, la sociologie, ce n'est pas forcément cumulatif. Donc chacun fait son petit travail intéressant de chaque côté, mais du coup, c'est très difficile d'avoir des éléments de comparaison, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a il y a parfois des grands courants. Par exemple, en sociologie, vous avez le versus quantitatif versus qualitatif, mais au dehors de ça, après, dans les instruments quantitatifs qui sont utilisés, ils sont très diversifiés, dans les instruments qualitatifs, tout autant. Donc c'est vrai que c'est plus difficile, parce que tout le monde ne travaille pas, le champ n'est pas structuré de la même manière, le champ des recherches, donc c'est plus difficile de voir émerger comme ça des controverses très vives et des problèmes. Ceci dit, moi, j'ai vu des controverses sur l'utilisage des statistiques, l'usage des statistiques. Qu'est-ce qu'on en fait quand on est en économie, par exemple? Parce que moi, je suis rattachée dans ma université à une faculté de sciences économiques, donc je vois bien des controverses sur qu'est-ce qu'on fait des statistiques en économie, autour de l'usage de cet instrument. C'est utilisé comme un instrument. Est-ce qu'on tire pas trop? Est-ce qu'on n'en infère pas trop? Quel type de statistiques il faut utiliser? Quelles sont les limites, etc. Donc il peut y avoir ce genre de choses. Mais en dehors de ça, c'est vrai que sinon chacun travaille un peu dans... C'est pas une critique, c'est juste un mode de recherche complètement différent, quoi. Je ne sais pas si les sciences humaines gagneraient, on voudrait, je pense, c'est le souhait du gouvernement, gagneraient à fonctionner comme les sciences, exactement comme les sciences de la nature. Je ne suis pas sûre. Hein. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Parmi les stratégies qui permettent justement d'asseoir un nouveau moyen d'observation, donc à l'époque de Galilée, c'était la qualité trucs était la qualité des témoins qu'il pouvait produire. Aujourd'hui, c'est plutôt le rôle des relecteurs dans le cadre des publications. Vous avez parlé d'interchangeabilité. Alors,
dans l'absolu, voilà. Dans un objectif meurtonien où la science serait désintéressée. Il y a un sociologue des sciences qui s'est intéressé, qui a fondé la sociologie des sciences et qui a décrit un petit peu les normes, c'est une espèce d'idéal. Donc la science est communautaire, elle doit donner des connaissances publiques, accessibles à tout le monde. Les chercheurs ne doivent pas recevoir d'argent en lien avec leur trouvailles. Donc, et puis le scepticisme organisé sous forme de c'est dans l'absolu. On sait bien qu'après, je me rends bien compte que dans les revues, d'abord on a de plus en plus de mal à trouver des relecteurs, parce que c'est un travail qui n'est pas rémunéré, qui prend beaucoup de temps si on le fait sérieusement, quelle que soit la discipline. Et puis bon, dans une communauté, vous devez le savoir, qui travaille sur telle partie de la physique des surfaces, dans le monde, il y a peut-être 50 personnes ou 100 personnes qui travaillent. Donc même si c'est anonyme, parce que c'est anonymé, on sait très bien que... Enfin, je ne pense pas me tromper.
Je voulais même aller au-delà de ça. Je pense que c'est une des stratégies qui devrait disparaître de cette liste. Parce que non seulement le nombre de personnes en mesure, disons techniquement, d'avoir un avis pertinent sur un article,
oui, il y en a pas.
Toutes ces personnes-là ne vont pas forcément être sondées dans la mesure où on va éventuellement en exclure, sachant qu'on peut être en concurrence avec certains d'entre eux.
Oui.
Donc cette stratégie pour accréditer une observation ou une découverte me semble assez,
à mon avis,
assez tendancieuse aujourd'hui.
Oui, voilà, et à mon avis, il faudrait entreprendre une grande réflexion sur ce sujet parce que ça devient un vrai problème. Non seulement plus personne ne veut faire relecteur, mais en plus, effectivement, même quand il y a des relecteurs, c'est pas effectivement, c'est plus ou moins. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion pour faire avancer les connaissances scientifiques sur ce point-là. C'est quelque chose que, à mon avis, les sciences de la nature vont pas. C'est pareil dans tous les domaines. Hein. On prend la physique des surfaces, mais en pharmacologie, c'est pareil. Hein, je veux dire, et c'est quelque chose qui, ça ne pourra pas continuer comme ça. Genre il va falloir trouver quelque chose, un moyen, je sais pas, j'en sais rien, je n'ai pas d'idée, mais je ne sais pas du tout, mais en tout cas trouver quelque chose pour que ça refonctionne. À mon avis, ça fonctionnait dans un certain sens mieux avant, parce qu'il y avait déjà moins de revues, moins de production, parce que là maintenant, dans tous les domaines, il y a une inflation. Donc, moi j'ai vu dans le laboratoire où j'étais, des gens étaient très souvent sollicités, mais très, je sais pas, une fois sur, ils disaient oui une fois sur 15 ou 20, parce que bon, sinon ils passeraient leur temps à faire des... Si on veut le faire sérieusement, une fois de plus. Parce qu'on peut aussi accepter et puis faire ça en diagonale. Mais ça n'a pas d'intérêt. Enfin, l'intérêt est assez limité.
Une anecdote. Après Röntgen et en 1905, les rayons X, les Français ont découvert les rayons N.
Ah oui, je sais, Nancy.
Et
N comme blonde.
Et ils auraient dû appliquer ce protocole. Parce que ça a duré assez longtemps. Hein.
3-4 ans.
Plus que ça, parce que les Allemands, l'ennemi héréditaire, avaient trouvé les rayons X, donc nous, il fallait qu'on trouve quelque chose, les rayons N. C'était une bref mystery, et toute l'Académie des sciences...
Ah oui, elle avait été ridiculisée, là, pour le coup. Hein. Je veux dire, ça, c'est... non, ça, vous avez tout à fait raison.
D'autres réactions? Non, bien. Donc avant de se quitter, j'ai juste quelques annonces à faire. Donc d'abord, dans les prochains rendez-vous, alors on va se projeter en 2010. D'abord, au niveau d'une conférence, toujours en histoire des sciences, ça passera le mardi 2 mars 2010 à 18h30. Ce sera une conférence sur l'univers d'Aristote et de Ptolémée. Donc une conférence vraiment typique histoire des sciences. Ensuite, l'an prochain, si on parlait en introduction d'observer l'univers donc en ondes submillimétriques, actuellement au planétarium, il y a une séance qui est projetée, qui est proposée, qui présente un programme d'observation, un observatoire baptisé ALMA. Alors, il y a en cours de construction, mais qui justement en fait observera l'univers en ondes submillimétriques. Et là, on présente eh bien le en quelque sorte, comment ils vont observer l'univers et ce qu'on attend de leurs observations. Ce sont surtout des observations liées aux galaxies très lointaines, qui, leur lumière qui nous parvient essentiellement des infrarouges, et au niveau des formations des systèmes planétaires, où on va essayer d'observer des poussières qui sont aussi relativement froides. Ensuite, l'an prochain aussi en astronomie, on va proposer des stages d'observation sur trois niveaux. Premier niveau, en fait, c'est un petit peu... arriver à poser un télescope à l'extérieur. Deuxième niveau, c'est arriver à quand même à utiliser ce télescope-là correctement et à observer des objets qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et troisième niveau, et on rejoindra une thématique qui a été abordée, c'est faire de l'astrophoto avec une webcam. On commencera de façon modeste. Et là, eh bien, justement, on touchera du doigt des artefacts qui sont dus aux webcams, comme tous les CCD, tous les capteurs numériques, avec donc les défauts du capteur, et aussi les défauts au niveau du fonctionnement même du capteur. Donc on verra cet aspect un petit peu théorique qu'on corrigera pour obtenir une image, on va dire, relativement propre. Voilà. Donc ça se passera donc au premier semestre de l'an prochain. Voilà. Donc les dates, je ne les ai pas en tête, ça sera au mois de février, mars et avril, mais on les retrouvera en fait dans les programmations qui seront bientôt éditées au début du mois de janvier. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et merci beaucoup, à une prochaine fois.